Dans le tempo, c'est enfin l'épisode 24. On est parti. Vous êtes dans le tempo, le podcast des passionnés de musique, le podcast qui parle de tous les aspects de la musique, toute la richesse de la musique. On s'excuse, parce que ça fait quasiment 2 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. On est dans une situation un peu particulière avec le podcast, vous le voyez autour de moi, il n'y a pas Michel aujourd'hui. Alors il se trouve que Michel, Chronomusique, est dans plein de projets en ce moment, et donc c'est compliqué pour lui d'assurer l'émission. Donc on va faire des épisodes sans Michel, on va voir ensuite comment ça se passe. Et justement, pour notre grand retour, eh bien, émission spéciale avec plein d'invités autour de la table. Alors c'est les copains, c'est particulier. Je vous présente quand même rapidement, on a Nala avec nous. Jérôme Rinoiser, Chili Toy. Alors, c'est la team Monte le Son. Vous le savez, ce podcast, il est disponible aussi en vidéo sur une chaîne qui s'appelle Monte le Son, qu'on a monté tous ensemble. On fait tous des formats dessus, on parle de musique, on est tous musiciens, tous autour de la table. Et puis, il y a le podcast à côté. Donc, peut-être que parmi vous, certains écoutent le podcast en audio, connaissent pas la team. Mais vous allez le voir, c'est des gens passionnants. Et notamment parce que l'idée, c'est, on l'avait déjà un peu fait avec Michel justement, et ça me paraissait intéressant de revenir là-dessus, c'est de partager nos expériences. On a tous des profils différents, on travaille tous dans la musique entre guillemets, mais on n'est pas exactement, il y a certains qui ont des carrières d'artistes, etc. Mais je pense qu'à travers tous nos profils, il y a plein de métiers différents qui concernent la musique. Et l'idée, c'est de parler un peu, d'avoir des témoignages qui peuvent soit inspirer, soit tout simplement vous faire part un peu de la complexité et de la diversité du monde et des métiers de la musique. Et puis peut-être même certains qui recherchent de l'orientation, des choix professionnels, etc. Ça vous aidera peut-être un petit peu. Alors, petit tour de table quand même. Peut-être Nala déjà, chanteuse incroyable, disons-le.
Merci, trop gentil.
Tu fais aussi donc des émissions avec nous, sur Twitch aussi en parallèle, donc animatrice, etc. On a aussi Jérôme qui, pareil, tu fais plein de choses, donc tu fais des formats avec nous. Tu as une carrière d'artiste aussi.
Bah, j'ai d'ailleurs commencé par ça.
Absolument. Et mais on y reviendra parce que ça, c'est passionnant. C'est que c'est plutôt là, enfin, en tant qu'artiste qui t'a amené derrière à faire des contenus, etc. D'autres, c'est l'inverse, je pense. Je sais pas, on va pas spoiler.
Absolument pas. Tranquille.
Raoul, pareil, musicien, multi-instrumentiste de grand talent. Tu as un groupe aussi, un G-son, etc. C'est aussi le cas de Jérôme. Enfin, bref, plein de profils extrêmement différents. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on dise un peu comment on gagne notre vie. Et justement, j'imagine que vous gagnez pas, il n'y a pas une seule source de revenus pour vous. Est-ce que vous gagnez votre vie que avec la musique? Quelles sont les différentes activités? Commençons par exemple avec toi, Nala. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu manges? Qu'est-ce que...
Dis-nous tout.
Moi, que de la musique.
Ok.
Les vidéos, surtout de ce qu'on fait sur la chaîne, dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai Twitch, que j'ai mis un petit peu de côté récemment parce que justement, je me suis beaucoup investie dans les vidéos et j'avais besoin aussi pas mal d'apprendre et de me professionnaliser un peu là-dessus.
Quand tu parles de Twitch, tu fais de la musique sur
Twitch? Ouais, je fais de la musique sur Twitch et de la production sur Twitch et aussi des battles de beatmaking ou des trucs comme ça, genre des sessions d'écoute de prod ou des choses comme ça, mais c'est vraiment que centré sur la musique. Genre, je fais rien d'autre sur Twitch. J'ai essayé de faire du gaming une fois ou deux, mais en fait... c'est cool pour le délire, mais en vrai, je suis beaucoup, beaucoup trop passionnée par la musique pour faire quoi que ce soit d'autre. Et donc YouTube, Twitch, et après il m'arrive de donner des cours de musique, mais là j'ai arrêté progressivement parce que je commence à être déjà plus à l'aise avec juste les métiers de
avec la moula, tu veux dire?
C'est-à-dire que oui, évidemment, avant évidemment il y a une période de ta vie, je pense, quand tu commences dans la musique où tu peux pas trop te permettre de refuser des trucs,
donc tu cours un peu plus, voilà.
Non, mais tu fais des trucs un peu plus je vais pas dire chiant parce qu'en fait j'ai adoré enseigner, tu vois. Mais là maintenant je ne cours plus que des cours aux potes, enfin aux gens que j'ai vraiment envie de voir et que voilà. Mais donc c'est la troisième source de revenus. Et voilà, moi c'est vraiment ces trois trucs là, je réfléchis. Si j'ai des trucs de missions ponctuelles, de voix off, de jingle et des trucs comme ça.
Et tu les pour toi, c'est un peu le même métier d'ailleurs. Tu vois, en tant que musicienne, tu penses qu'il y a une logique à faire de la voix off, ou c'est quand même un métier complètement différent?
Moi, je suis tellement passionnée par la voix que ouais. tout ce qui a trait à la voix, quoi. Okay. Mais je me suis pas encore lancée dans genre, tu sais, le doublage et tout. Mmh. Mais ça ne serait tardé parce que je suis fan de ça. Après, il okay. y a quand même une grosse notion, c'est que vraiment comédien de doublage, mmh. tu vois. Donc du coup, il y a quand même de l'acting et tout. Mais comme c'est un truc que j'ai beaucoup bossé aussi,
encore un autre métier.
Ouais. Je me dis que voilà. Mais au final, tu l'utilises vachement aussi dans la voix off, parce que là, je bosse par exemple sur une pub actuellement pour un truc d'assurance, on va dire, tu vois. Et genre, en gros, tu sais, il faut avoir un peu. Enfin, quand tu bosses par exemple sur ce type de pub, il faut que tu aies une voix de maman super assurante, nanana. Et puis des fois, tu parles.
Mais on se croirait dans une pub.
pour les assurances.
Maïf. Non, et genre voilà, et d'autres trucs où faut avoir l'air super autoritaire, ou alors. Enfin bref, tu vois, il y a des pubs types, et ce qui fait qu'en fait, tu dois vraiment modifier ta voix. Donc, il y a déjà un petit peu d'acting, je trouve, là-dedans. Mais c'est cool parce qu'en fait, moi, ça me fait aussi explorer ma voix, et je peux la modifier avec les résonateurs et tout, et mettre en application ce que j'ai appris dans les cours de chant, et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, ça me passionne et que je trouve ça trop cool de me dire, ah, quelle voix je fais aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir d'utiliser bien la palette que j'ai développée.
C'est marrant parce que donc, on voit qu'il y a déjà un métier qui serait un peu annexe, entre guillemets, qui est pas de la musique en tant que telle, mais où tu trouves quand même des similitudes. En tout cas, le savoir-faire musical que t'as, dans la maîtrise du chant notamment, il te permet quand même de toucher aussi un autre métier.
Ouais.
En l'occurrence, la voix off, quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est des trucs qu'on va retrouver aussi. Par exemple, toi, donc Rinoiser, comment tu gagnes ta vie? Est-ce que j'imagine que t'as plein d'activités différentes?
Ouais, bah alors aujourd'hui, ça, c'est principalement ce qu'on fait en partenariat avec Thomann sur la chaîne.
Création de contenu.
Création de contenu, ouais. Vidéo, c'est ce qui principalement me fait manger quand même. Et à côté de ça, je fais aussi beaucoup de mixage pour des artistes. Donc, je m'amuse à régler leur son parce qu'ils sont pas assez bons. Mais je bosse aussi régulièrement en agence de, avec des agences de com. Donc, je fais aussi de la musique pour soit des trucs un peu institutionnels, soit des musiques de pub.
La commande, en fait.
La commande.
Ouais.
Voilà, de la musique à l'image, des trucs qui sont pas forcément ouf, qui passent pas forcément à la télé, qui restent souvent en interne, ouais. qui sont même parfois pas acceptés, parce qu'ils démarchent plein de gens. Donc ça fait partie des gros billets que je me fais à l'année, on va dire, en général. Mais sinon, ouais, principalement, aujourd'hui en tout cas, principalement contenu vidéo, et ouais, agence et mixage, et mastering. Et
parce que t'as aussi une carrière artistique.
Ça, c'était un peu plus, c'était avant Covid, du coup. Avant Covid, ouais, je faisais pas encore de vidéo. Du coup, là, j'enchaînais. En fait, j'ai fait pas mal. Enfin, ma carrière a commencé un peu en tant qu'artiste il y a une dizaine d'années, mais c'était vraiment pas en mode sérieux, quoi. J'étais plus en mode vas-y, c'est pour le délire et pour faire la fête avec les potes, quoi. Et du jour où j'ai un pote qui m'a dit qui bossait dans une SMAC, il m'a dit ouais, inscris-toi quand même au Printemps de Bourges, on sait jamais, ça peut marcher. Et j'avais commencé à quand même développer le projet Rinoiser en amont, et il s'avère que ça a pris. Donc j'étais jusque Bourges en 2017. Donc c'est Bourges, pour situer un peu, c'est un gros festival, un gros tremplin pour les artistes. Donc ça m'a un peu lancé et prouvé un peu que je pouvais un peu vivre de la musique à un certain moment. J'ai commencé à prendre ça au sérieux, en fait.
Parce que aujourd'hui, est-ce que ta carrière artistique, t'as même monté un label?
Ouais. C'est un label entre potes, mais
c'est
oui.
un label entre potes. En tout cas, tu t'investis aussi là-dedans.
Ouais.
Par contre, tu l'as pas cité quand je parlais de source de revenus, parce que c'est un truc qui est
pas
là
pour le moment. C'est plus de la dépense et un kiff avec les potes. En fait, la musique en tant que telle, ma musique me rapporte rien par rapport au temps que je passe. Enfin, c'est plus de la dépense. C'est pas ça qui me ramène de l'argent. C'est plus faire de la musique pour de la commande, mais jamais ma propre musique, elle me rapporte rien. En fait, c'est juste je perds énormément de temps à la faire. Ça me crédibilise aussi en tant qu'artiste. Mais aujourd'hui, vu que je fais plus de concerts ni rien, ça me rapporte rien, quoi.
Et toi, Raoul, alors parce que c'est un truc similaire, c'est que tu es un gestion.
Ouais.
Tu as un groupe de musique aussi, donc une carrière artistique d'une certaine manière. Ça te rapporte de l'argent, tout ça? Comment tu vis, toi aussi?
Alors, c'est un peu similaire à Jérôme, Rinoiser. C'est similaire à Jérôme dans le sens où ce qui me fait le gagner le plus d'argent et de manière régulière actuellement, c'est Monte le Son.
Ouais.
Donc le partenariat avec Thomann. Donc des contenus réguliers. Et sinon, jusqu'à maintenant, avant Monte le Son, parce que j'ai rejoint l'équipe assez récemment, c'était de mixage. Mixage et production, arrangement pour d'autres personnes. Okay. Pour des groupes surtout. Et en fait, j'ai eu cette chance-là. J'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai fait des études assez... Je peux pas dire si c'est à haut niveau, mais exigeante, qui me prenait beaucoup de temps, mais en parallèle, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête la musique. parce que c'est la seule chose qui me faisait un peu vibrer et que j'avais envie de faire. Donc, j'ai développé de manière assez organique un pool de clients tout au long de ma licence, en fait. Et au début, ça commençait par juste mixer pour le plaisir, pour apprendre, tout ça.
Donc, c'était presque un petit réseau que tu t'étais fait d'abord de gens très proches, j'imagine, et qui petit à petit s'est étendu et t'a permis d'en tirer un revenu, quoi.
C'est ça, du bouche à oreille. Et au bout d'un moment, c'était en mode, pour celui-là, je vais te payer. Et petit à petit, là, et ça fait des clients vraiment fidèles. Donc, j'avais un cycle d'une trentaine de clients réguliers. Et vu qu'il y a des cycles assez réguliers d'albums qu'on enregistre et qu'on tourne, bah ça faisait que ça se tuilait assez bien dans ma vie. Et donc ça, c'était ma principale source de revenus. À côté, j'avais les cours, un peu comme les cours de guitare, de production, de mixage.
Okay.
Et à côté de ça aussi, de temps en temps, des petits gigs par-ci, par-là, de sessions.
C'est vrai, on n'a pas parlé de ça.
On n'a pas parlé de plein de choses.
Mais oui, mais ce n'est que le début, les amis.
J'ai pas du tout dit les gigs, moi. C'est vrai que j'ai même pas pensé. Ouais.
Les petits concerts,
parce que parce qu'il y a eu le Covid et donc il y en a tellement moins que.
Ouais, c'était avant.
Ça a bien changé les choses.
Ouais.
Bon, déjà, vous voyez, on fait un petit tour de table. Ça vous permet de voir qu'effectivement, c'est des profils différents, intéressants. Si on se réunit aussi, parce que je l'ai pas dit, mais si on se réunit autour de la table, c'est parce que si, donc le projet Monte le Son, on l'a lancé il y a 2 ans. Donc c'est un peu notre anniversaire.
Ouais.
Et il se trouve aussi d'ailleurs que c'est l'anniversaire du podcast, quasiment 2 ans. Mais bon, sans Michel, ça avait pas beaucoup de sens de faire un truc anniversaire du podcast.
Ouais.
Donc, je reviens juste rapidement là-dessus. Le podcast se lance plutôt dans un nouveau cycle. Mmh. Donc, on va revenir beaucoup plus régulièrement. Mmh. Il va y avoir des gens à chaque fois autour de la table différents, etc. D'autres animateurs pour le moment avec moi. Mmh. Et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est de relancer la machine. On va pas faire ça en mode anniversaire. Par contre, c'était cool de réunir pour Monte le Son, pour l'anniversaire de Monte le Son, un peu ces profils différents. Et ce que je vois déjà, c'est que il y a déjà une forme de petite, pas tension, mais on voit qu'il y a l'aspect purement artistique personnel, si je puis dire, d'un côté, et puis le côté aussi, il faut bouffer.
Ouais.
Et que les deux sont pas forcément toujours en adéquation. Est-ce que, par exemple, vous considérez que vous vivez de la musique de manière générale? Est-ce que vous, quand vous rencontrez quelqu'un professionnellement, vous dites « je travaille dans la musique ». Ouais. Est-ce que c'est adapté ou pas? Ouais.
Ouais, bah, c'est quand même si tu fais pas ce que tu fais en tant qu'artiste, tu travailles quand même autour de la musique et dans la musique, quoi. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus tendance presque à dire on travaille dans l'audiovisuel presque que la musique, mais quand même vachement autour de la musique, quoi.
Ouais.
Parce que c'est, même si on fait des vidéos et tout, on fait des vidéos sur la musique et en faisant de la musique. Donc, pour moi, on fait de la musique, quoi.
Vous avez à peu près le même sentiment, vous, ou c'est plus
complexe? Moi, c'est plus complexe que ça.
Ouais.
Ouais. Moi, j'ai une certaine forme de, je sais pas si c'est de la pudeur ou c'est de la gêne ou je sais pas quoi. Mais alors, moi, je dis rarement que je travaille dans la musique. Mmh. Quand on me demande ou quand j'ai des papiers à remplir et tout, je dis soit je suis monteuse vidéo. Tu sais, des fois, je synthétise beaucoup parce qu'au final, c'est le plus gros du travail en vrai sur la chaîne.
En fait, t'as un vrai travail, toi.
Non, mais ouais, c'est ça, en fait. J'ai peur qu'on me dise... Tu vois, en plus, on est à Paris. Et en fait, je pense aussi qu'il y a ce truc de je suis une fille. Et très vite, je suis cataloguée comme « Ah, bah, je suis une petite chanteuse qui pousse la chansonnette. » Comme il y en a beaucoup. Et je dis pas d'ailleurs... Enfin, ça a l'air un peu condescendant, la manière dont je l'ai dit, mais j'ai peur que ce soit pas pris au sérieux, tu vois.
Mmh. Ah bah c'est un peu le cas. Hein.
Oui,
quand j'arrive,
c'est pour ça,
quand j'arrive avec, dans une soirée où il y a que des gens qui ont des super métiers et tout, et que je suis le seul mec avec des cheveux un peu gras, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, je fais du son.
Ouais, mais voilà, c'est pour ça. Moi, je pense que j'ai tendance à dire, je travaille dans l'audiovisuel, je fais du montage, ou alors. Et moi, le nombre de fois où au début je disais je fais de la musique, mais quoi, créatrice de contenu, ah mais t'es influenceuse du coup, et très vite moi on m'a dit ah alors, donc tu fais des photos sur Instagram,
c'est...
et tout, je fais oh là
ouais. Alors influenceur et youtubeur, c'est encore un autre thème, mais c'est plus dur à porter,
ouais, j'ai l'impression c'est qu'on beaucoup
est plus
dur à
vite remis en bas d'une case,
ouais.
Alors que bah c'est un taf, quoi, mais les
ouais,
gens
ouais,
enfin
ouais,
tu t'es plus musicien, t'es encore en dessous,
toi, t'as ça ou pas,
créateur de contenu marketing, moi je dis
marketing, ah oui, je suis même marketing
parce que c'est ce que je fais un peu à côté de...
Je travaille beaucoup avec les marques, c'est pour ça que tu dis
ça.
Content
marketeur, c'est comme ça qu'on
dit. Non, parce que ça dépend des contextes.
Ouais.
Moi, j'ai la chance d'avoir des potes qui ont des vrais métiers aussi, mais qui sont passionnés de musique, la majorité. Donc, ils sont tellement admiratifs en mode, ils vident la musique, c'est incroyable.
Ouais, mais ça, j'en ai beaucoup aussi qui sont comme ça, quoi.
Ouais. Donc, j'ai cette chance-là, donc j'ai pas trop cette pudeur avec mes potes, mais par exemple, location d'un appartement. Je dis jamais musicien.
Non, là, on travaille dans le marketing.
Non, moi,
même pour les instruments, pour le bruit, moi, je dis créateur de contenu marketing et ça passe bien.
Ça va, toi, tu peux mettre un petit casque, un petit truc.
Il y a une pudeur, hein, je crois.
Tu dis?
Je dis pas que je travaille dans la musique, non. Parce que pour moi, travailler dans la musique, c'est soit être artiste.
Ouais.
Quand je parle d'artistes, ça peut parler aussi de compositeurs, etc. Pas forcément que les interprètes, mais globalement les gens qui écrivent ou interprètent de la musique, ouais. De manière générale. Soit des gens qui font partie de l'industrie musicale. En tout cas, je le vois comme ça. C'est-à-dire que, parce que.
On en fait partie un peu avec la chaîne.
Mais je sais pas. Mais ça d'ailleurs, c'est intéressant parce que.
C'est un thème fort, quoi.
Mais c'est un des sujets que je voulais aborder. On peut le faire dès maintenant. D'ailleurs, la discussion nous amène à ça. Parce qu'on a l'idée, donc, il y a la création artistique d'un côté. On sait effectivement qu'il existe aussi l'industrie musicale. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers où on n'a pas besoin d'être musicien, d'ailleurs. On peut travailler dans la communication, dans le marketing, ouais. dans la comptabilité, plein de choses, etc. Et on sera quand même dans l'univers de la musique.
Ouais.
Par exemple, j'ai énormément d'amis qui vivent de la musique, qui sont intermittents, ouais. qui sont quand même un petit peu musiciens, ouais. mais qui font la majeure partie de leur statut en faisant des ateliers pour les gamins ouais. ou pour des assos
Bien
ou pour
sûr.
Plein de trucs.
Bien sûr.
Et du coup, ils font leur intermittence comme ça, et, ou alors ils montent des scènes. Mais du coup, ils sont intermittents, souvent musiciens quand même, mais ils jouent très peu en live ou... Enfin, ils font vraiment ça autour de la musique. Mais...
De toute façon, ça va être difficile de dégager des grandes catégories, mais on pourra en parler successivement. Mais c'est vrai que souvent, tu deviens un technicien d'une certaine manière. Je pense que l'exemple
ouais,
que tu prends, c'est quand tu fais ton intermittence, en général, tu as un savoir technique, un savoir-faire technique, et on fait appel à toi dans plein de domaines qui sont pas forcément liés à la musique, mais comme c'est un peu lié, etc., tu deviens un technicien disponible pour les gens.
Ouais, enfin, t'as les deux. T'as vraiment ouais. la technique pure, monter les scènes,
après, les artistes aussi qui sont intermittents.
Ouais, voilà. Ouais. Et après, t'as ouais. aussi les artistes qui, justement, plus dans le cadre d'ateliers, ouais. où tu vas aller faire des sessions musicales, mais qui vont jamais très loin, parce que c'est souvent avec des débutants ou des gamins, ouais. ou dans des foyers, tu vois. Enfin, moi, j'en ai fait pas mal aussi. Et j'ai vraiment des potes qui font ça à l'année, tu vois, et qui vivent de ça. Bah, quoi.
On reviendra alors à ce moment-là sur l'industrie musicale. Et je voulais parler aussi de, non pas de l'industrie musicale, mais de l'industrie de l'audio pro. Parce que justement, c'est nous ce qui nous permet de vivre. Et déjà, il faut distinguer les deux. Et autant tu vois, si je bossais pour l'industrie musicale, je pense que je me sentirais à l'aise de dire, je travaille dans la musique. Mm-hmm. Mais là, je travaille pour un business qui est un peu différent. C'est les gens qui fabriquent ou qui vendent du matériel de musique. Mm-hmm. Et c'est pas le même univers déjà. Et j'ai plus de mal à dire que je travaille dans la musique dans ce cadre-là. Mm-hmm. Mais à la limite, on peut y revenir après si vous voulez.
Ouais. C'est parce que toi, tu te sens pas non plus trop artiste. Enfin, tu es musicien, mais tu te sens pas. Enfin, tu sors pas d'album. Donc on a. Enfin, moi et toi. Enfin, toi et moi, en tout cas, on n'a pas le même rapport à ce niveau-là, par exemple.
Ça, c'est certain. Et pourtant, on fait le même métier.
Mais enfin, ouais,
voilà. Ce qui me ramène de quoi bouffer, c'est le même métier.
On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
Exactement. Mais on reviendra là-dessus. Parlons de l'enseignement, de la pédagogie, des ateliers, parce que c'est vrai que c'est un moyen de vivre de la musique, mm-hmm. Et qui est certainement pas le plus accessible, mais en tout cas, lorsqu'on n'a pas encore beaucoup de contacts professionnels, etc., mm-hmm. c'est un moyen d'arriver à gratter un peu à droite et à gauche de quoi vivre. Vous avez tous donné des cours ici, moi aussi d'ailleurs, mm-hmm. j'ai donné des cours de guitare. Mm-hmm. Comment vous êtes arrivé à donner des cours? Et surtout, est-ce que c'est un truc, c'était presque une vocation? Est-ce que vous pourriez continuer si vous en aviez la possibilité? Ou en vrai, c'était surtout parce qu'il fallait bouffer et, voilà.
Moi, je suis dans une famille de professeurs de musique. Ah. Donc, ma mère enseigne la musique, mon père enseigne la musique et mon frère enseigne la musique. Donc, ouais, c'était un peu obligatoire. Ouais. Et alors, moi, j'ai commencé hyper jeune à donner des cours à mes voisins-voisines parce qu'ils avaient envie. Et puis après, voilà, je me suis professionnalisée. Très vite, je suis rentrée dans des petites écoles privées, des trucs comme ça. Donc, j'ai enseigné déjà dans une école musique actuelle un peu rock et tout au début. C'était assez cool, un peu une école franco-américaine sur Paris. Et ensuite, j'ai enseigné dans une petite école de quartier. À chaque fois, c'était chant, piano, solfège, des trucs comme ça. Et moi, par contre, ça m'a révolutionné ma manière de comprendre la musique, voir la musique, expliquer la musique. Moi, sans ça, je serais pas du tout la même artiste. C'est clair et net. Genre, à chaque fois que je donnais des cours, j'apprenais en fait. Mais j'apprenais beaucoup. Hein. Moi, les enfants, ils m'ont.
En fait, le fait de devoir simplifier les choses, ça te fait comprendre aussi encore mieux le sujet dont tu parles.
Moi, ça m'a vraiment changé. Quoi.
Limite, vous conseilleriez aux gens qui nous regardent, si vous êtes musicien, à un moment donné dans votre vie, de donner des cours, de transmettre, parce que justement, ça fait évoluer ta pratique, ça te rend même meilleur musicien.
Au moins transmettre.
Ouais.
À minima, ouais.
Ouais, moi je pense que alors tout le monde n'est pas entre gros guillemets doué pour ça parce que je pense qu'il faut quand même un mindset pédagogue, il faut avoir envie, c'est sûr. Déjà on va pas dire force-toi, ça te ferait toi un meilleur musicien, il y en a ils y arrivent pas.
Après moi j'ai commencé à faire ça par exemple, j'avais pas du tout j'étais pas super chaud à le faire parce que j'avais jamais fait, mais j'y étais comme ça parce que argent. Et au final, j'ai vite pris goût parce que je trouvais ça. Enfin, j'ai pris des petites claques de vie avec des gamins qui venaient de loin, tu vois. Enfin.
Parce que la particularité dans ton exemple, c'est qu'il y avait une vocation aussi socioculturelle en général.
Ouais, souvent,
tu prenais part à des ateliers, des choses comme ça. C'était pas des cours privés.
Ouais, non, c'était pas du tout. C'était vraiment. C'était dans la majeure partie du temps où j'ai fait ça, c'était dans le cadre d'un CLEA. Je sais plus exactement ce que ça voulait dire, mais en gros, on intervenait autour d'une région. Ça pouvait être dans les foyers, ça pouvait être dans des EHPAD, ça pouvait être dans des collèges, dans des maternelles. On a même failli faire. Alors il y a eu le Covid, mais on a failli faire un truc où une nourricière. Non, comment ça s'appelle ?
Ok. Enfin, une crèche.
Une crèche, quoi. Ouais, voilà. Et on a failli faire un atelier dans une crèche.
D'éveil avec des enfants.
Ouais,
quoi.
D'éveil, ouais. Vraiment d'éveil musical. Et on avait commencé à réfléchir à des trucs et tout. Mais du coup, ouais, il y avait. Bah déjà, il y avait plein de... Tous les jours, ça changeait, quoi. Du jour au lendemain, on avait des gamins de foyer, des gamins d'un lycée professionnel et des vieux le lendemain, tu vois. Donc, c'était hyper intéressant, même, tu vois, de toujours se renouveler, de se dire, bon, là, comment on va faire ? Après, j'ai pas fait ça tout seul. J'étais avec un groupe de hip-hop avec qui j'avais... Enfin, des potes avec qui on avait un groupe de hip-hop à l'époque et qui s'appelait Highbird. Et du coup, on avait plusieurs... Moi, j'étais vraiment focus machine. Du coup, je leur montrais des trucs avec les boutons, les machines et compagnie. Et mon pote qui chantait plus, qui était plus dans l'écriture, rap. Du coup, bon, voilà, on alternait un peu sur les ateliers. C'était vraiment cool. Et il y avait... Ouais, je me suis pris des claques de life. Les gamins dans les foyers, c'était incroyable, tu vois.
Ouais.
Par contre, tu vois la différence quand tu vas dans les foyers où ils sont à fond, tu vois, ils sont taqués de ouf. Les gosses, ça fait 10 ans qu'ils galèrent, tu vois. Et là, t'arrives, tu leur donnes un petit peu de bonheur, et t'arrives dans un collège où tout le monde s'en fout, tu vois. Tu fais, voilà, c'est dur, tu vois.
C'est intéressant ça aussi parce que moi, j'avoue que j'ai toujours en tête notre discussion là, parce que moi-même, je me suis heurté à ça et que je vois que plein de gens se heurtent à ça, à la question de l'orientation. C'est-à-dire que quand on est un adolescent ou un jeune adulte et qui cherche quoi faire de sa vie, et c'est pas toujours évident de se dire comment je mêle passion et en même temps bah il faut aussi avoir un métier qui permet de payer son loyer et tout. Et donc je suis assez sensible à tous ces métiers qui permettent parfois un peu de mêler des choses comme ça. Et c'est vrai que par exemple on peut travailler dans le milieu culturel ou dans le milieu même social, même pourquoi pas dans le médical, dans le socio-médical, etc., et arriver à mettre de sa passion, de ce qu'on aime, de la musique, etc., et quand même trouver une forme d'accomplissement en partageant sa passion musicale, mais dans un contexte qui est pas fait pour ça à la base, mais qui permet quand même d'échanger et d'apporter un truc à des gosses, à des gens, etc., en difficulté. Et donc ça peut être aussi une réflexion, une piste de réflexion, en tout cas pour des gens voilà, qui se posent des questions, si des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et... toujours garder, enfin, bref, je rentre dans mon truc, mais toujours garder sa passion, faire des choses. Et en général, quand on arrive à des moments, il y a des croisements qui se font dans la vie, très souvent, je trouve.
Et puis, il faut oser y aller aussi, tu vois. Moi, enfin, je reprends l'exemple des ateliers, mais tu vois, j'étais pas parti particulièrement chaud pour faire ça. J'y étais, et au final, c'est clair, enfin, si t'as la fibre sociale déjà de base, et que tu commences à faire ça et que t'aimes bien la zik, tu dis, bah, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois, comme taf. Enfin, tu peux te découvrir des choses juste en testant des choses aussi, quoi.
Et puis ça peut être une vocation. Moi, je me rappelle, on avait reçu Kondo dans ce podcast, et qui lui est complètement là-dedans. Allez voir cet épisode si vous l'avez pas vu et ou l'écoutez-le. Mais c'est quelqu'un qui a une carrière artistique assez marquante dans le rap et qui pourtant a dédié toute sa vie justement à accompagner des artistes, des gens en difficulté sociale, des gens en prison, etc. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je pense que pour lui, il le mêle beaucoup à la question du hip-hop et de la retransmission. Et c'est vrai qu'aussi, parce que ça, c'est encore une strate supplémentaire de la musique et qui est super intéressante, c'est que il y a des courants musicaux, des mouvements, des trucs qui nous touchent dans la musique qui mettent ça aussi en avant. Pour dire, voilà, encore une fois, il y a tellement d'approches possibles et que la musique, on peut tellement la mettre dans plein de choses dans la vie, j'ai l'impression.
Mais sur la question de l'orientation, j'aimerais bien rebondir dessus. Parce que moi, j'ai jamais fait le pas de... Je me suis toujours, j'ai été convaincu que récemment que la musique c'était ce que je voulais faire dans ma vie. Et je pense que c'est important de valoriser le fait que c'est tout à fait légitime et c'est bien d'avoir un à côté.
Ouais,
si c'est
sûr,
ta passion et si c'est la chose qui te fait vibrer, ça sera présent où que tu ailles dans ta vie et quoi que tu fasses.
Ouais.
Donc petit à petit, ça va prendre le dessus, tu vas trouver un moyen de le mettre dans ton métier si c'est vraiment ce que tu as envie de faire.
Ouais.
Mais c'est tout aussi légitime et bien d'avoir la musique à côté, le petit îlot un peu de création. Et un métier.
Je suis content de ce que tu dis. Après, je vous laisserai réagir, Nala et Jérôme, à ça. Mais c'est que casser le truc un peu binaire. C'est-à-dire que c'est soit tu te donnes corps et âme et tu lâches tout pour faire que de la musique en espérant que ça prenne, et puis il y aura plein de gens à contraire à côté qui vont dire oh, ne fais surtout pas ça parce que tu vas te planter, ou alors t'abandonnes complètement le truc. Et en vérité, il y a tellement plein d'arrangements possibles.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, en fait. J'ai même envie de dire, quand tu fais que de la musique tout le temps, ben, en fait, t'es plus dans ta passion, tu reviens dans un taf un peu routinier, quoi. Du coup, quand tu gardes un taf, enfin.
Il peut y avoir des débat.
Non, mais je suis à moitié d'accord avec ce que je viens de dire aussi, parce que c'est un peu, enfin, c'est vrai oui et non, tu vois. En fait, t'as toujours la passion, c'est cool ce qu'on fait, tu vois. Moi, je suis hyper content de vivre de la musique aujourd'hui. Mais quand t'as un taf à côté et que la musique c'est vraiment ton plaisir absolu, bah quand le week-end tu fais de la zik, c'est vraiment une autre démarche, quoi. T'es vraiment à fond, tu vois, tu te donnes à 2000%. Ouais. Alors que nous, bon, on est peut-être un peu moins à 2000% aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais c'est kiffant, on va pas se le cacher.
Ouais, pourquoi toi tu réagis? Qu'est-ce qui te...
Moi, j'ai pas l'impression de travailler, mais
oui, ouais, non.
À part le montage, peut-être c'est chiant, mais mais c'est créatif, c'est trop cool en vrai, mais bon. Non, moi, ce que je voulais dire, c'était surtout par rapport aux gens qui voulaient se lancer. On en a parlé un petit peu avant de lancer l'émission, mais en gros, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent faut percer, il y a un facteur chance, qui se disent ouais, c'est un peu du hasard, la musique, soit t'es très bon, soit non, soit t'es fils d'eux, machin. Mais je pense qu'en fait, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans la musique, il y a une forme de pragmatisme à avoir et surtout de rigueur. Et je pense que les gens, ils passent totalement à côté de ça. Y a plein de gens qui me disent, ouais, mais toi, t'as réussi parce qu'en fait, tes parents, ils sont dans la musique, toi, t'as réussi parce que machin. Mais pas du tout, en fait. Moi, il y a vraiment un jour où je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai fait que ça. Moi, mon enfant, j'avais pas trop d'activités extrascolaires parce que je faisais 2-3 heures de musique tous les jours. Et alors oui, évidemment, je suis née à Paris. Enfin, après, il y a le hasard de la vie aussi. Mais je pense pas qu'il y ait... Enfin, il y a un moment, si vraiment... Et puis surtout, si t'es organisé, si tu trouves... Enfin, je veux pas commencer à parler de trucs genre benchmark, machin et tout, mais moi, j'y ai pensé parce qu'au moment où je me suis lancée dans Twitch, je me suis dit, OK, je vais regarder ce qui se fait. Je vais regarder quel type d'émission il y a, quel type d'émission il n'y a pas encore. Et je vais voir si moi, je peux tirer mon épingle du jeu. Et je pense que cette réflexion-là, il faut l'avoir, être organisé et pas se lancer en mode, je vais faire un EP de rap et puis je vais révolutionner le rap. Enfin non, frérot, en fait, tout le monde a pensé à ça avant et tout, tu vas te noyer dans la merde.
Alors moi, par exemple, moi, je suis beaucoup plus freestyle dans ma vie.
Ouais, mais...
C'est-à-dire que déjà, à part la musique, si j'y arrivais pas dans la musique, bah, mes choix, ils étaient pas ouf.
Mais ça ou bah, bien, quoi.
Ouais.
Ça ou la prison.
Pas loin, tu vois. Non, mais ouais, en gros, j'ai même pas misé dessus, en fait. Je misais sur que dalle. Je suis assez anarchique dans mes pensées là-dedans, quoi. Et en fait, ça a fini par prendre parce que, par contre, je suis un acharné. C'est-à-dire, ouais, quand je commence un truc, j'aime bien aller quand même assez loin dans le truc. Peut-être pas aussi à fond que j'aimerais bien y être, tu vois, mais faute de temps. Mais par contre, quand je fais un truc, j'y vais au taquet. Et si aujourd'hui, j'arrive à en vivre, c'est parce que ça fait 10 ans que je m'acharne à le faire, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais faut, ouais.
Mais c'est, ouais, en fait, c'est une question de rigueur, comme tu disais. Jamais lâcher l'affaire. Chiltoy pourra le dire aussi.
Mais est-ce que c'est un acharnement en mode... Est-ce que c'est en mode pénible?
Non, bah non, c'est un kiff.
En fait, c'est toujours se remettre en question quand même. Tu vois, il y a ce truc de affiner tout le temps l'algorithme pour voir. Et puis surtout, s'adapter tout le temps au nouveau.
T'as pas fait une école de commerce, hein.
Mais genre,
je suis pas aussi systématique que toi.
C'est vrai,
mais...
alors que pourtant, t'es vachement dans le.
Moi, c'est
game
volume.
Du...
C'est quantité sur qualité.
Je dis souvent ça. Et non, le pire, c'est que ça marche. Donc,
non, mais je sais que j'axe mes contenus. C'est
ouais,
sûr, je fais des trucs
flashés.
Mais j'ai pas l'impression de travailler comme toi.
Mais moi, je disais pas ça au niveau. Comment dire, optimisation,
oui,
d'algorithme,
ouais,
justement. Je suis très anarchique avec
ouais,
ça.
Je suis comme toi.
Je fais pas trop attention à ça. Quand je vois un truc qui marche, bon, je me dis, bon, je vais refaire un truc dans ce style, mais
exactement.
Du jour au lendemain, je peux complètement changer, tu vois.
Et puis attention, parce que là, il peut y avoir confusion aussi entre notre activité de création de contenu, où là, il y a une forme de pragmatisme commercial,
ouais,
marketing,
ouais,
qui est obligatoire.
Non mais ouais, par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a eu un amalgame parce que j'ai dit.
Et inversement, dans le côté artistique, pas forcément. Enfin, ça dépend. On peut approcher l'artistique aussi en mode marketing, etc. Ce qui a une certaine valeur. Et puis, à l'inverse, dire, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Alors que c'est pas possible quand tu crées du contenu, notamment si tu travailles avec une marque comme on le fait. Ouais. On peut pas juste dire, on y va en freestyle et on verra bien.
Non, ça, c'est clair.
On reste sincère dans nos contenus, etc. On essaie de faire des trucs qui nous intéressent avant tout nous. Mm-hmm. Mais pour autant, on prend en compte le fait qu'il y a des spectateurs derrière. Ah, et c'est un peu intéressant et qu'on fait pas que ça pour nous.
Mais
quoi.
C'est là
alors
où.
Pour là, là, on peut... là, on peut le faire, mais plus que pour nous, quoi.
Ouais, mais c'est là où moi, je suis un peu privilégié parce que je vis pas mal de contenus où c'est ma musique originale. Ouais. Et on me donne carte blanche. Parce que ils voient le type de contenu que je fais. Qui mettrait en valeur les produits d'une certaine
ouais,
manière.
Ouais, mais c'est pas tout une part. T'as fait beaucoup, t'as produit
bien
beaucoup
sûr,
avant
bien sûr, ouais.
pour créer ta valeur, entre guillemets.
Mais pour compléter ce que tu disais sur le développement, le pragmatisme, je sais pas si je dois le divulguer, mais anecdote, avec mon groupe, on avait obtenu, parce que c'était la mère d'une amie, un rendez-vous avec une... Non, l'amie de la mère d'une amie.
Ouais, bon.
Bien. Oui, voilà, on avait obtenu un rendez-vous auprès d'une directrice artistique d'un gros label qui est à Paris, un label assez important. Et le premier truc qu'elle nous a dit, le premier truc qu'on nous a dit, c'est n'arrêtez pas votre métier ou n'arrêtez pas vos études, tout ça.
Ouais.
C'est en mode soyez un petit peu intelligent dans vos choix. Ouais. C'est de la musique, c'est l'expression de votre identité, c'est vous. Si ça devient un chantier, c'est trop de stress sur le projet. Ça va exploser. Donc, viable.
Oui, tant que c'est pas viable.
Elle nous donnait l'exemple d'un des artistes qu'elle suivait, c'était Ben Mazuet, qui était médecin et qui a arrêté la médecine assez tard, à partir du moment où son projet était viable.
C'est fou ça.
Bah, en même temps, c'est risqué quand même. Enfin, tant que t'es pas un artiste vraiment qui a percé, même si je n'aime pas trop le terme, mais c'est quand même compliqué de dire je fais un métier, mais du jour au lendemain, limite, ça peut s'arrêter, tu vois. Enfin. On est dans un métier quand même un peu précaire.
Surtout, t'as fait médecine, t'as fait quoi? 7 ans minimum d'études et t'arrêtes pour chanter. Faut vraiment que t'aimes chanter. Mais alors, pourquoi
c'est un exemple spécifique. Mais en même temps, ça rejoint ce que tu disais. Un projet artistique, ça, c'est le cas précis où la personne qui regarde le podcast veut vivre de sa musique en tant qu'artiste, compositeur, interprète. Il faut construire le projet.
Ah,
on se lance pas du jour au lendemain.
En full artiste, vraiment, juste concert et album, c'est hyper complexe.
Il faut le voir comme une entreprise. Malheureusement.
Voilà, mais moi, c'est ça que je voulais dire.
Ça se construit sur une base.
Il faut le voir comme une entreprise, mais tout en conservant ce truc de... C'est ça qui est dur, en fait.
J'ai envie de dire, oui, je suis globalement d'accord avec vous, mais pas toujours. Dans le sens de... Non, et l'exemple de Rhinoiser, par exemple, c'est assez différent. Parce que toi, t'as jamais été dans cette optique-là. Je dis ça parce que je connais bien ta musique. C'est une musique qui était très personnelle, assez radicale, etc. Et elle t'a amené à d'autres choses, mais jamais tu t'es dit.
Moi, je fais pas ça. Je fais ça pour mon plaisir. Mais après, je trouve que c'est une force aussi parce que je fais un truc qui est un peu différent de ce qui s'entend, tu vois, de base. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'un jour, y a un mec qui va me repérer. Et peut-être que ça marchera, tu vois, ou peut-être que je ferai des musiques pour de la pub. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Mais du coup, j'ai fort axé sur une DA très très particulière, on va dire. Mais sans, ça percera jamais, tu vois. Ce genre de son, je le sais. Mais je kiffe absolument ce que je fais, tu vois. Je fais pas de concessions.
Et puis la niche dans la musique, la niche
et
quand
la
même,
niche, c'est important.
Et aussi source potentielle de
bien sûr
pour en vivre, quoi.
Je connais des artistes qui vivent principalement de Bandcamp, par exemple.
Ouais.
Ils font toutes leurs ventes sur Bandcamp et ils font que ça. Ils sortent des albums sur Bandcamp. Ils ont quasiment rien en communication. Ils sont nuls en réseaux sociaux et ils vendent tout sur Bandcamp, quoi. Je trouve ça fou. C'est encore une autre manière de vivre de la musique sans même faire de live, sans même être connu, tu vois, en fait.
Il y a un autre truc qui a commencé à être abordé. Alors, tu parlais, toi, de tes parents en disant, oui, mais il y a la rigueur et la rigueur, je me la suis imposée moi avant tout. On a l'exemple de Jérôme qui, lui, a plutôt misé sur faire sa musique personnelle et puis ça finit par donner des choses, des embranchements à côté. Raoul, c'est encore plus compliqué parce que t'as fait des études dans un autre domaine et puis finalement, et moi aussi d'ailleurs. Et parlons de nos parcours pour voir un peu justement, parce que un peu de concret, un peu de témoignage, on parlait des différentes manières, d'une certaine façon, d'aborder les métiers de la musique. Mais souvent, en fait, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. C'est notre parcours de vie, notre parcours, potentiellement nos études, etc., qui vont nous amener à notre situation actuelle. Et justement, c'est intéressant. Même si on partage certains métiers, on est tous créateurs de contenu, on n'a pas du tout le même parcours.
Pas du tout.
On n'a pas fait des études forcément tous dans la musique, des choses comme ça. Donc, parlons un peu du parcours de chacun et essayons de réagir un peu à qu'est-ce que ça a engendré, pourquoi, etc. Tu veux commencer, Nala, par exemple?
Bah,
en plus, toi, t'as un parcours musical, vraiment.
Ouais, bah moi, ouais. Moi, j'étais assez radicale. J'ai pas voulu faire trop de choses. Ah si, il y a un moment, enfin, je sais pas.
Mais comment tu commences la musique? Enfin, tôt?
Ouais, à 6 ans. 6 ans au conservatoire.
Ouais.
J'ai fait d'abord de la flûte traversière. Ensuite, je suis rentrée dans une école horaire aménagé mi-temps. Donc, j'allais à l'école le matin et au conservatoire l'après-midi. Donc, j'ai bouffé du solfège, de l'orchestre, de la chorale, du truc. J'ai fait d'autres instruments à côté. J'avais commencé la viole de gambe, enfin, avec du répertoire baroque et tout. Ensuite, j'ai arrêté. Je me suis lancée dans le jazz, parce que le classique, ça me convenait pas du tout. Et parce que c'est vraiment centré sur l'interprétation et pas sur la création. Genre, en gros, c'est vraiment, voilà, tu interprètes des pièces qui sont déjà faites. Alors que moi, j'avais très envie de créer mes propres jeux. Ou même la notion, par exemple, de scat et d'improvisation dans le jazz, qui est très, très présente et que moi, j'adore, parce que c'est un petit grain de folie, un petit truc un peu sympa qui laisse transparaître ta personnalité à toi. Et donc là, j'ai pareil, c'est aussi au conservatoire. J'ai fait chant jazz, piano jazz. Et ensuite j'ai fait un an de à côté, voilà, j'ai essayé juste quelques mois de fac parce que pareil, j'avais envie à côté de me quand même mes parents qui me disaient oui, au cas où, vas-y, fais quand même une petite licence de autre chose, tu vois.
Parce que ton idée à ce moment-là, parce que en gros, il y a OK, l'enfance, et puis après on arrive au bac, j'imagine que tu as fait un bac en parallèle,
bac
puis après
musique,
il se pose la question qu'est-ce qu'on fait après ? Déjà ouais. Tu disais moi je veux vivre autour de la musique ?
Ouais ouais, mais moi de toute façon, c'était
Le destin était tout tracé.
Bah non, mais en fait,
j'avais tout calculé.
Moi, j'ai l'impression que j'ai pas trop. Enfin, ouais. Après, moi, j'avais pas trop confiance en moi quand j'étais plus jeune, et j'avais l'impression que j'avais pas trop de talent, quoi. Enfin, je me disais, j'avais pas été particulièrement douée pour les études, et je me disais, il y avait qu'au conservatoire que ça avait à peu près bien marché, et je me disais, il faut que je rentabilise là-dessus, enfin que tu vois, parce que ouais, j'avais hyper peur de pas trouver ma place dans la société, de me dire non mais c'est vrai, tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise, mais alors à l'époque on m'avait un peu cassé à l'école et on m'avait dit oh là là, dis donc, tu vas pas réussir dans la société, dans la vie. Donc du coup j'ai essayé quand même de faire une fac, c'était quoi, c'était LLCE anglais, donc langue, littérature, civilisation étrangère, parce que l'anglais est un truc que j'avais appris grâce au jazz et que j'adorais et que j'avais déjà trop pratiqué. Donc comme j'étais déjà un peu bilingue, je me suis dit allez, fac d'anglais machin, mais en fait trop chiant, quoi. Enfin, je traînais des pieds pour aller à la fac, les gens de ma classe.
Mais t'avais une idée derrière la tête quand même en faisant cette formation ou non?
J'y allais.
Il fallait faire un truc.
Ouais, fallait faire un truc. Ouais. Et je me suis dit, la seule bonne note que j'ai eue au bac, c'était l'anglais. Non, mais tu vois, limite, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait ça, mais 4 mois j'ai tenu. Après, j'ai dit, je suis malade, je suis plus jamais revenue. Voilà. après j'ai fait le conservatoire, j'ai pas mal continué, ingé son pendant un an à l'écart et
une formation donc d'ingénieur du son.
Ouais, mais pareil, enfin moi c'est vraiment l'école, les classements, les notes et les trucs, ça m'a toujours pompé de ouf, quoi. C'est de dire alors toi t'es plus fort que lui, mais lui il est moins fort que toi et machin, genre. Genre laissez-moi. Tu vois, mais je pense que toi aussi tu comprends ça, ce truc du je préfère être chez moi sur mon petit tuto YouTube ou sur mon truc n'importe quoi et je prends le temps de comprendre et je prends le temps de, ou alors tu regardes des gens le faire et tu vas en studio et puis t'apprends des, le contact est tellement plus humain, je trouve, et puis tu comprends mieux.
Il y a
en fait,
plein de manières d'apprendre, hein, mais l'école ne va pas à tout le monde, quoi.
Ouais, non, moi j'aime pas trop ça. Et voilà, et donc du coup au final qu'est-ce que j'ai fait après, je sais plus trop, mais oui, j'ai toujours fait quand même majoritairement des études là-dedans et j'ai jamais ouais, moi je me suis toujours dit que j'allais faire ça, enfin je sais pas.
Et comment se fait la bascule, c'est-à-dire que OK, donc on comprend bien que tu navigues un peu dans les études après le bac, c'est compliqué,
ouais, ouais.
Mais t'as quand même ce fil conducteur du conservatoire, de la musique, etc.
Ouais.
Et comment tu finis par gagner ta vie autour de la musique quand même, tu vois?
Ah, ça a été dur. Moi, pendant des années, là, avant le Covid, je faisais des gigs pas mal, mais c'est très...
Des concerts en tant qu'artiste, en tant qu'interprète?
Ouais, très aléatoire. Des mariages, des soirées, des trucs comme ça, tu vois. Et quoi d'autre? Et pareil, ouais, des fois, des jingles, des trucs, des pubs, mais c'était...
Et l'événementiel aussi, si je dis pas de bêtises.
Oui, j'ai fait du booking, je travaillais dans des bars, on avait pas parlé, à Paris, j'ai fait je bookais des artistes dans des salles et des trucs comme ça. Mais j'avais du mal à joindre les deux bouts, hein, clairement. Mmh. Et puis Covid, je me suis dit, allez, stop. Là, il y a tellement un grand bouleversement que j'ai envie de commencer un nouveau truc, quoi. Je me suis dit, et j'ai vraiment réfléchi. Je sais pas comment Twitch est venu, mais je me souviens que je suis allée voir mes parents et hyper sérieusement, je suis allée les voir et je leur ai dit, bon, j'ai réfléchi. Je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Je sais que vous connaissez pas, ça vous fait peur, mais ça, je réalise que c'est les seules qualités que sur lesquelles moi j'ai confiance de ouf, c'est-à-dire la tchatch, la passion, la musique et le côté multimédia que je gérais déjà vachement bien. Et je me suis dit comme ça, j'y vais à fond et là vous êtes sûr que j'irai au bout du truc et que je vais tellement me donner que je sais pas, j'y croyais et ils m'ont dit ok, bon bah écoute, on sait pas trop ce que c'est, mais donc ils sont venus voir mes lives hyper régulièrement et ils me disaient franchement ouais, ça se voit que tu kiffes de ouf ce que tu fais. Et voilà, je pense qu'à force de le faire.
Et puis aujourd'hui, oui, c'est la création de contenu qui est, ouais, qui est ta principale activité.
Mais c'est
quoi.
Vrai que, il y a encore quelques temps, on m'aurait dit, tu vas être youtubeuse musique, j'aurais fait genre, n'importe quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, je dis, mais c'est tellement évident, en fait. Mais même 10 ans en arrière, c'est tellement évident. J'ai toujours regardé YouTube, j'ai toujours adoré ça. Mes stars à moi, c'est les youtubeurs, c'est les, enfin, tu vois. En vrai, hein, c'est terrible, mais c'est mes people à moi, quoi, tu vois, c'est trop débile, mais... Et donc, du coup, j'adore ça, quoi.
Et le fait un peu, et ensuite, on verra les parcours de Raoul et de Jérôme, le fait comme ça un peu de naviguer, de finalement vraiment s'installer assez récemment, mm-hmm, c'était source d'inquiétude.
Ouais.
Parce que ça, c'est un truc quand même, je pense qu'on retrouve dans beaucoup de parcours de gens qui essaient de vivre autour de la musique, c'est l'inquiétude, elle est quand même omniprésente.
Ouais, mais je me suis jamais arrêtée. En fait, il y a jamais un moment où je me suis dit, bon, tu sais quoi, là, 6 mois, je vis du chômage et je réfléchis un peu, genre, non. En fait, je trouvais un... Moi, je pense qu'en fait, c'était une manière de me faire mes contacts. Et aujourd'hui, j'ai des contacts de partout. Je suis trop contente, que ce soit dans l'événementiel...
C'est une des clés, ouais, aussi hyper importante qu'on n'a pas encore évoquée, mais ouais, le réseau, c'est la base de tout.
Ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a, ah ouais, toi, ta formation en musique, vraiment conservatoire, etc., l'événementiel qui t'apporte du réseau, peut-être un savoir-faire en termes d'animation, etc.
Oh oui.
Qui ensuite te permet...
Tout, ouais.
Ce savoir-faire, tout ce que t'as acquis, tu le mobilises aussi pour un nouveau truc où t'apprends aussi de nouvelles choses, mm-hmm, mais la création de contenu, Twitch, etc. Mm-hmm. Donc on voit quand même que, même si toi tu le vivais de manière, ouais, inquiète et en naviguant un peu à droite, ouais, et à gauche au début, il y a à chaque fois c'est un apprentissage qui se passe, ouais, et puis ça apporte quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est un truc... on est un peu tous dans ce cas-là.
Ouais,
ah, comment ça se passe, Jérôme? Comment, à quel âge tu te mets à la musique? Comment petit à petit ça devient ta vie?
Bah alors moi, anomalie de la famille déjà. Donc, je suis le seul artiste de la famille qui kiffe la musique déjà.
Ouais,
globalement.
Mais ils aiment pas la musique, là.
Bah pas trop. C'est famille ouvrière, ouais, du Nord. Non, ils ont pas de culture musicale proprement dit. Tu vois, ils ont même artistique. Enfin. Ils ont bossé, tu vois. Ouais, ils ont bossé dans des tafs pas ouf. Enfin pas ouf. Voilà, ils ont des situations ouvrières ou administratives, tu vois, des métiers un peu de monsieur tout le monde. Mm-hmm. Du coup, non, la musique, c'est un hobby pour les riches, mm-hmm, pour limite, quoi, enfin, tu vois. Et du coup, parcours musical, moi, je découvre la musique peut-être vers 12 ans, mais tu vois, je commence à écouter du Nirvana ou des trucs un peu pétés qui passent à la radio, tu vois. Et j'enregistre des cassettes à l'époque sur mon vieux poste old school.
Tu faisais tes petites compiles à toi?
Et je me faisais mes petites compiles et je sais même plus quelle radio j'écoutais, sûrement du campus ou quoi, vers l'âge de 14-15 ans. J'écoutais beaucoup de punk, de métal, du coup je me mets à la guitare à peu près à cet âge-là. Donc je m'achète ma première guitare à Cash Converter. Je sais même pas si c'était encore en francs ou... Non, ça devait être déjà...
J'ai rarement vu une bonne guitare à Cash Converter. Ça devait être difficile.
Et je l'ai encore, c'est celle qui est chez moi.
Je confirme, elle est pas ouf.
C'est pour ça que j'ai arrêté la guitare après. Et après, ouais, bah du coup, gros parcours rock dès le début, punk rock, metal.
Tu jouais avec des gens? Tu fais des groupes avec des copains?
J'ai essayé, mais non, j'étais très clairement très mauvais à la guitare. C'était pas mon truc. Enfin, je diguais pas assez le truc. Je faisais du skate aussi en parallèle. Du coup, j'étais à moitié en mode sport et je faisais du son en rentrant. Et après, j'ai découvert une bande de potes qui m'ont fait un peu découvrir la musique électronique. Okay. Et qui faisaient des rave parties. Et oui. Enfin, qui organisaient des événements, en tout cas, Lego et pas Lego. Mm-hmm. Et c'est grâce à eux, Lego, pas le jeu.
Oui, on ne parle pas de la construction.
Et du coup, ça, c'est un peu grâce à eux que j'ai découvert tout ce milieu de la musique électronique à l'époque. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Non, il n'y avait vraiment pas YouTube, il n'y avait même pas Facebook, il n'y avait rien. Donc c'était « Allô, tu fais quoi ce soir ? Ouais, viens, on se rejoint, on a une asso, on fait du son. » Et là, je découvre des gens avec des platines, des machines et tout. Et là, je fais « Waouh, mais c'est quoi ce bordel ?» Et j'ai acheté ma première machine peut-être un mois après, quoi. Et puis c'est avéré que j'étais assez doué pour ça. Enfin, mes potes m'ont dit « Ouais, putain, c'est pas moi qui fais du son, il nous nique. » Enfin, en gros, ça s'est un peu passé comme ça. Du coup, je pense que j'étais un peu à l'aise avec ce genre d'outils, plus qu'avec la guitare en tout cas. Ouais. Et j'ai digué ma vieille RM1X, une vieille machine Yamaha, pendant au moins 2 ans. J'ai poncé le truc comme il fallait. Et après, je suis passé à une machine un peu plus grosse. Puis après, j'ai acheté mon premier PC. Et puis, j'ai jamais arrêté, en fait. Mmh. J'ai toujours fait un peu des petits tafs un peu pourris pour me nourrir à côté, quoi. Mmh. Et jusqu'au jour où on me repère un peu, où je fais un accompagnement artistique qui m'emmène à Bourges, du coup, qui était quand même en 2016-2017, en gros.
Parce que juste avant de revenir à Bourges, tu commences aussi à tourner un peu, à faire concerts.
Alors, et surtout, j'ai sauté une grosse étape.
Ouais, faire un peu de smack, quelque chose comme ça, qui te permettent.
Ben, j'ai fait beaucoup de soirées en Belgique à l'époque. En fait, au tout début, j'avais un autre projet qui était Paris Noiseur où je faisais du breakcore et du hardcore aussi, et de l'IDM, de la drum and bass, un peu tout ça mélangé. Et du coup, j'ai un peu tourné en Belgique quand même à une certaine époque où c'était la grosse montée de la musique électronique en Belgique.
Mais ça te permettait pas d'en vivre non plus ?
Non, bah non, c'est pas avec des cachets à 150€ que tu... Enfin, ça te fait que dalle en fait, c'est un bonus quoi. Mais bon, à l'époque, t'étais quand même content quand on te payait pour aller jouer. Parce qu'en général, c'est vrai, t'as les bières gratuites quoi. Bah cool, j'espère que t'as prévu deux fûts. Mais après, je jouais énormément dans les cafés à Lille, où j'ai vécu une bonne dizaine d'années. Donc, on organisait aussi des soirées avec les assos, donc on a eu aussi pas mal de crews avec qui on organisait quand même des bonnes grosses soirées.
Mais tu vois, c'était important de le préciser, parce que pour le passage à Bourges, j'imagine que ça a joué, le fait de commencer à sillonner un peu les scènes, etc.
Ouais, on avait déjà...
Pour se faire voir, en fait.
En fait, on avait déjà... Moi, je suis pas arrivé à Bourges en ayant peur de monter sur scène, tu vois. J'avais déjà fait plein de scènes où il y avait...
Mais ça change tout.
Où il y avait du monde, tu vois, quand même. Donc, même si je suis pas connu, même si, tu retrouveras jamais rien de cette époque de moi. Mais ou alors, faut très, très fortement chercher.
Peut-être des diggers, on sait
jamais. Mais après, c'est un truc que j'assume plus forcément. Ça fait partie de mon passé, mais bon, c'est une musique que j'écoute plus du tout. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a fait faire plein de choses, notamment des soirées avec beaucoup de monde, avec des gros artistes aussi, par moment. Mais je suis passé clairement à autre chose depuis longtemps, en fait. Et du coup, c'est vrai quand j'arrive dans un accompagnement artistique où je commence à développer mon projet un peu plus calme, plus en mode dance floor vénère, tu vois, et que je commence à avoir une vraie DA artistique et tout, et là, je me fais accompagner par... J'habitais à Amiens à l'époque, donc ça s'appelait Le Patch, donc c'était de l'accompagnement artistique. Et c'est grâce à eux qu'on a été jusque Bourges. Et en parallèle de ça, j'ai fait des résidences à la GAM, la Grange à Musique de Creil. Donc là, c'est là où, par exemple, j'ai appris à monter un show live et pas juste une sorte de DJ set live un peu foireux où on te voit même pas. En fait, j'ai appris à vraiment monter des vrais shows musique électronique, mais avec de la vidéo, avec une équipe qui m'entourait et tout, quoi. Donc là, ça, c'était un passage assez important qui m'a aussi fait dire... ok, ta musique, elle peut te servir de métier, quoi, quelque part.
Et le passage on comprend bien que toi, ton sérail, c'est le côté artistique, entre guillemets. Ouais, en tout cas, c'est de développer ton projet personnel artistique et qui, lui, t'amène derrière d'autres choses. Et quoi, après, ça passe par de l'intermittent. C'est comme ça aussi que tu fais des ateliers, que tu commences à faire de la commande, puisque tu parlais, tu bosses pour des...
Alors, faire l'intermittence, je suis toujours passé à deux doigts. Okay. C'est en tant qu'artiste, c'est quand même très dur de faire 507 heures. Faut les faire, quoi. Mm-hmm. Et du coup, pendant 3-4 ans, je suis quasiment tout le temps passé à côté, quoi. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai ouvert mon entreprise, et enfin, je me suis dit, vas-y, je vais faire autre chose. Et je vais cachetonner ailleurs, quoi, pour me faire une sorte de vrai salaire, quoi.
En gros, tout ça t'amène à avoir du réseau, à commencer à faire des trucs à droite et à gauche aussi.
Ouais,
payer, j'imagine, c'est quoi? C'est des demandes de mix dans un premier temps?
C'est vrai, quoi, j'ai toujours eu des mix un peu en parallèle. Ouais. Parce que J'ai eu une époque aussi où j'ai fait énormément ça, parce que je kiffais la technique. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, avec mes machines, ça sonnait tout pourri. Et je me suis dit, non, mais c'est pas normal, il y a un problème, tu vois. Et en fait, c'est juste que je savais pas mixer. Et du coup, j'ai commencé à vraiment focus tout ce, bah, tout le côté technique du son, quoi. Et du coup, ça m'a aussi forgé une bonne expérience, parce que, bah, pendant 5-6 ans, j'ai fait que ça. Enfin, je prodais, je mixais. Et j'ai plein de trucs qui sont partis à la poubelle. Hein. Et du coup, à force, je devenais pas trop mauvais. Du coup, mon entourage commençait à m'appeler pour des mix. Et en fait, voilà, presque du bouche à oreille. Et je mixe encore des artistes, des potes de potes qui m'appellent de temps en temps. Jamais des gros artistes, hein, mais voilà, ça me permet de rester dans le game et de continuer à avoir la main sur dans ce milieu-là. Quoi. Okay. Et en plus, je mixe et masterise tout ce que je fais perso, quoi.
Donc on voit bien déjà la différence de profil.
Ah, c'est pas du tout pareil.
Et de parcours de vie pour au final arriver à faire du contenu autour de la musique, etc. Il y a un métier assez similaire.
Il y a quand même le Covid qui a été
C'est vrai que nous, le projet, c'est vrai qu'à l'origine de la chaîne, il y avait pas encore Nala, il y avait pas encore Raoul. On était tous les deux. C'était un petit peu avant le Covid quand même que ça se lance. Mais très vite quand on se lance, il y a le Covid derrière, effectivement.
Ouais, c'est vrai qu'on s'est lancé un mois, deux mois avant.
Après, la première grosse vague.
En vrai, ça m'a sauvé parce que, en tant qu'artiste, le Covid, ça a foiré, ça a mis tout le monde au stop, quoi. Et quand t'étais pas intermittent, t'avais plus rien, quoi.
Moi aussi, du jour au lendemain, j'avais deux, trois métiers, tous.
Et je pense que, du coup, même, enfin, je fais une petite aparté, mais genre le Covid, pour tous les artistes débutants ou ceux qui n'ont pas réussi à faire leur intermittence, ça a dû casser des carrières qui débutaient, ou ça a été hyper compliqué, à mon avis.
C'est sûr. On n'a jamais encore, dans mes contenus, j'ai encore jamais abordé la crise Covid dans la musique, parce que quand tu le vivais, ça me paraissait. Ouais. Beaucoup de gens en parlaient, puis j'avais pas. Je préfère avoir du recul.
Puis ça saoulait tout le monde.
Ouais, peut-être aussi. Enfin, après, ceux qui le vivaient, je pense que c'était important aussi de parfois les accompagner, ouais. Mais il y avait des gens pour ça, je pense. Peut-être qu'un jour, on fera un podcast ou je ferai un culture son, je sais pas, un autre de mes formats autour de cette question et voir avec du recul quel a été l'impact réel, aussi d'un point de vue économique, etc., sur le changement de la filière musicale, plein de choses comme ça. On verra dans le futur. Toi, Raoul, ton parcours, est-ce que il se rapproche de l'un ou l'autre? Est-ce que c'est encore autre chose?
C'est encore autre chose, je vois. Mais Picardie. Donc, mon enfance, c'est en Picardie. Donc, les champs, les vaches, l'air frais.
C'est bucolique. On voit l'image. Vas-y, continue, je vais
dire. Un tout petit village, 500 habitants quand j'y ai habité, qui s'appelle Dernancourt.
De toute façon, en Picardie, à part Amiens, il n'y a pas trop de villes, quoi.
Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je suis né à Amiens, donc on se rejoint sur ça. Donc, enfance Picarde, bucolique, ouais. Plutôt tranquille. J'ai eu un instituteur incroyable.
Attends, on n'a pas parlé de la clinique où t'es né.
Non, vraiment, je pense que tout ce qui est musique et artistique, ça commence à l'école primaire.
Ok.
Grâce à cet instituteur qui nous passait des chansons sur les dinos, sur tout ça. Okay. J'étais passionné des dinosaures aussi. Mais il y a eu un déclic, je pense.
C'est fou, ça. Okay.
Et la femme de cet instituteur, donc Jérôme, si tu regardes ou écoutes ce podcast, Marie, donc la femme de Jérôme, qui était artiste, peintre, qui faisait des ateliers à l'école. Et de temps en temps, elle nous faisait peindre des trucs, des pots pour des fleurs, ou je ne sais plus exactement ce que c'était, des paniers et tout ça. Et à chaque fois, je me rendais compte que c'était facile pour moi, et j'adorais ça, et c'était un petit peu l'espace privilégié de création. Parce que très très vite, dès le CE2, je crois, j'ai été heurté au truc, le racisme, tout bêtement, parce que je suis racisé. Et en Picardie, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques dans les petits villages. Donc j'étais le seul Asiatique, vraiment. Et je sais que par rapport à mes frères, parce qu'on est une fratrie de 4 garçons, je l'ai vécu assez durement, je pense, parce que j'ai un naturel assez hypersensible. Donc très vite, j'étais en mode, l'univers est hostile.
Il me faut réfugions-moi, c'est ça, dans l'artistique.
C'est ça, oui. Donc c'est un espace de création où tout est possible et personne me dit, t'as pas ta place. Donc ensuite, on enchaîne sur le collège-lycée où il y a toujours ce petit soupçon de racisme, même si c'est pas toujours violent. Ils ne s'en viennent pas toujours à l'acte, mais t'es toujours en mode à questionner, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'as ta place? Et donc, forcément, dès que t'as un échappatoire, tout ce qui est création, musique, tout ça, tu le saisis. Mais j'ai toujours eu des facilités à l'école. Donc, j'ai toujours été un peu premier de la classe et tout ça, en travaillant assez peu. Donc, c'est ouais, le truc énervant. mais en même temps, j'ai toujours voulu que les autres m'aiment parce que ce truc de vouloir appartenir au groupe. Donc chercher à ce que les autres t'aiment. Donc j'ai toujours été délégué quasiment tout au long de ma scolarité ou représentant de ma licence et tout ça. Parce qu'il y avait toujours ça, ce sentiment de devoir justifier que je suis là et que je fais partie et j'ai envie de... Soyez mes amis, s'il vous plaît. Et au collège, il y a eu ce truc de la guitare où je me suis rendu
compte. C'était un moyen justement d'être aimé aussi de
faire je crois qu'il y a un peu de ça.
Position, bah,
c'est,
une
place, bah, c'est rétrospectivement. Mais...
La musique, c'est aussi une manière de s'affirmer.
S'intégrer. Hein,
ouais. S'intégrer à un groupe. Là, pour le coup, ça nous rejoint un peu tous.
Clairement. Mais la guitare, je me suis rendu compte... Si tu bosses vraiment bêtement la guitare, la technique, tu vas jouer le plus vite, le plus de notes, le plus fort et tout ça. Avoir un degré de maîtrise qui va faire que tu vas être reconnu. Et entre pairs, entre musiciens, il n'y a pas ces problèmes de racisme. On commence par la musique. Le premier contact se fait par l'audio. Ensuite, peut-être qu'il y a des problématiques. Plus, je ne vais pas les aborder là, mais... Et du coup, ça me donnait cette
légitimité. Compris dans l'industrie, parfois, etc. Ouais, il y a d'autres choses qui existent, bien sûr. Mais tu moi, veux dire juste quand on se rencontre entre musiciens, tout en tout cas,
ça me donnait une légitimité et j'étais en mode bon bah j'ai trouvé mon truc, je serai le musicien un peu intello mais qui fait de la musique. c'est pas la case intello un peu dans son coin, c'est
pas chiant.
L'intello cool qui est aimé, c'est ce que je voulais être, je pense. Ouais.
Mais du coup, people pleaser là, j'adore.
Bah, ouais, c'est tout le temps ça. Hein, c'est le parcours de ma vie, ce combat.
Ça forge un caractère.
Ouais. Ouais. Et en même temps, bah, c'est toujours ce truc de j'ai une estime de moi qui est très très basse. Donc la musique fait que j'ai quelque chose. Les gars, regardez, j'ai un truc que je maîtrise. Mm-hmm. Et ensuite, on arrive au bac. Je fais un parcours scientifique parce que c'est dans la famille. Mm. Hop, science.
En plus, bon élève, j'imagine qu'on allait te dire « Vas-y, mon gars, fais des études !»
Non, mais c'était une évidence. Le bac S, c'était l'évidence. Donc, au début, c'était prépa, parce que mon grand frère avait fait le lycée Henri IV, en MP, donc mathématiques, physique. Moi, je voulais pas. Donc, on a trouvé un entre-deux entre fac et prépa, qui était hébergé par Paris Sciences et Lettres, donc qui est une communauté d'université. Ils ont créé un cycle d'études pluridisciplinaires entre fac et prépa. Donc on avait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des partiels et aussi le contrôle continu. Et des mémoires à chaque niveau de licence.
Rêver,
des mémoires à chaque niveau de
licence. Oui, parce que c'était un parcours axé recherche. Donc dès la L1, on faisait des dossiers de recherche.
T'avais envie de souffrir, en fait.
C'est clair.
Mais justement, moi, je pensais que je
me lançais... Let's go.
Je veux souffrir.
Non, mais il y avait toujours ce truc de... Bah, mes parents aussi qui s'inquiétaient parce que première génération née en France, immigrée. Issu de l'immigration, bah, il faut assurer une base. Donc, c'est, et un métier au moins. Tu fais bien de la musique et t'aimes bien et t'es très heureux quand tu fais de la musique, mais un métier quand même. Bien sûr. Parce qu'ils s'inquiètent, forcément, c'est les parents. Et donc, il y avait toujours ce truc de, il faut faire des études prestigieuses au cas où.
Ouais, bien sûr. Non,
comme toi, la licence, c'est toujours ce truc dans un coin de ta tête.
Nos deux histoires sont pas comparables.
Et puis même au-delà de la question, du racisme ou quand t'es issu de l'immigration, etc. Il y a aussi la question socio-économique, tout simplement. Ouais. C'est un truc, d'ailleurs, tout à l'heure, que tu disais, il y a la rigueur qu'on s'impose, et je suis complètement d'accord. Il y a un moment besoin de rigueur, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas en capacité de s'imposer cette rigueur, parce qu'ils sont rattrapés par le quotidien et le fait qu'il faut trouver à bouffer. Je pas dans le drame, pas des gens qui sont à moitié à la rue, mais juste qu'il y a plein de gens qui, au quotidien, pensent plus à comment j'assure le truc, quoi, et pas je m'impose une rigueur pour travailler la musique, parce qu'il faut du temps pour ça, etc. Quoi.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, quand je dis ça, le truc, c'est que... Par exemple, comme
mais pour autant, je suis d'accord avec toi.
Hein. Ouais,
je suis d'accord qu'il faut, si vraiment ça te passionne, etc., il faut s'imposer une discipline et trouver l'ajustement que tu peux dans la mesure de tes moyens.
Ouais, bien sûr. Mais moi, par exemple, pareil, j'ai commencé à bosser des petits métiers, des petits jobs et tout, genre dès 16 ans, quoi, parce que il fallait voilà. Mais c'est à côté, quoi. C'est le soir ou c'est le matin ou c'est le midi ou c'est. Mais comme je disais, moi, j'ai des parents qui savaient déjà travailler la musique, donc qui m'aidaient vachement. Et puis, mais après, je te comprends. Quand il y a vraiment cette histoire de moi, je suis pas née dans la précarité, tu vois. Donc ça, c'est sûr que ça change tout.
Ou même sans parler de grande précarité, hein, mais juste des gens qui viennent d'un milieu où bon, c'est ric-rac, enfin tu vis normalement.
Et c'est où, j'évoquais tout à l'heure avec ma famille, c'est qu'ils avaient pas le temps de faire de la musique parce que il fallait bouffer juste. Enfin, quand t'es pas éduqué juste à écouter ou à t'intéresser à l'art, tu te rends pas compte de ce que c'est. En fait, tu comprends même pas. Ma mère, je l'emmène dans un musée, elle capte rien. C'est quoi
Moi, je suis la première
Pourquoi
génération.
Pourquoi il a fait une tache noire sur
deuxième génération. Mes grands-parents, ils étaient pareils à l'usine ou au primeur. Et mes parents ont été les premiers justement à avoir un peu réussi au conservatoire et à s'être dit allez let's go. Mais c'est hyper jeune dans l'histoire de ma famille aussi. C'est pour ça que moi je me dis je suis hyper privilégiée quoi. Parce que une génération plus tôt, pour le coup, moi je sais pas si j'aurais eu le courage de mes parents de m'imposer dans un truc.
Il y a un truc qui est certain, c'est que il y a des environnements socioculturels plus propices à pouvoir développer une carrière artistique. Ça veut pas dire que tu vas y arriver. Ça veut pas dire que c'est pas difficile aussi et que c'est une galère pour plein de gens aussi ou c'est un peu plus facile. Mais ne serait-ce que qu'on te laisse la chance, ou même que toi, ça peut même juste être toi dans ta tête, te dire « je peux éventuellement vivre de la musique », c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une grande chance, en tout cas. Mais on t'a un peu interrompu
Non, du tout.
Ensuite,
on rebondit.
Tu fais des études qui n'ont rien à voir avec la musique.
Je ne l'ai pas mentionné, mais les parents, moi... en tout cas, mon père m'a appris que la musique, c'était quelque chose de... C'est pas juste un bruit de fond. Ouais. C'est, on l'écoute, on l'apprécie...
C'est il y a de la musique.
Ouais,
il écoutait vraiment de tout.
Ça, c'est une forme de chance aussi.
Oui, carrément. Et donc, j'ai pas eu ce problème du rapport à la musique un peu dissonant entre les générations.
C'est pas un problème en soi, dans le sens où après, peut-être que tu l'apprends plus tard, mais c'est aussi ton entourage que tu te fais après, en fait. Ton éducation, elle passe pas que par tes parents, heureusement.
Il y a plein d'autres façons de le faire. Mais c'est sûr, quand t'as de la musique à la maison, ça aide aussi un peu.
Ah oui, bien sûr, ça t'éveille un petit peu plus vite et un petit peu plus précisément, mais. Moi, j'ai eu de la chance d'être naturellement attiré par ça et d'avoir eu un entourage aussi qui m'a beaucoup poussé, enfin qui avait des frères qui étaient zikos, tu vois. Du coup, ça change la donne. Mais du coup, les parents, bon, c'est un point de départ. Mais après,
t'as des frères zikos quand même.
Non, des potes, enfin des frères de potes.
Des frères, le bro.
Ouais. Okay. Voilà. j'avais des potes qui avaient des grands frères.
Oui. D'accord.
Je me suis mal expliqué.
Je sais pas où on a... Ah, les études?
Ouais, les études complètement dehors de la musique, mais à ma connaissance, il y a un switch quand même qui se fait à un moment dans les études.
Ouais.
Bah, dès la licence, en fait.
Ouais.
Dès la licence, déjà, je vais pas dans ce parcours pluridisciplinaire, pardon, je vais en humanité, pas en scientifique.
Okay.
Donc déjà, c'est un switch assez important. Et j'ai rencontré les personnes les plus brillantes que, je continue d'en rencontrer, mais des gens tellement pétillants. Et des gens tellement pétillants et qui faisaient de tout, et il y avait énormément de musiciens dans ma promo. Je sais pas, je suis tombé dans la bonne promo, je pense. Où il y avait tous des gens hyper talentueux, hyper curieux, tellement vifs. Et donc, ça faisait qu'il y avait toujours des musiciens et je faisais partie des musiciens de la licence. Donc, il y a eu toujours de la musique tout le temps. On avait des projets qu'on montait. On faisait tous les galas et tout ça. Donc, ça forge quelque chose. Et donc, j'ai fait un double parcours droit et histoire de l'art. Donc, j'ai fait deux L3 pour valider les deux. Et après ça, je me suis dit, bon, la musique, ça commence à prendre tellement de place parce que aussi la licence de droit a fait comprendre que je pourrais pas faire de métier dans ce milieu-là.
Okay.
Parce que j'ai fait à l'Université Paris-Dauphine. Donc c'est tellement un clash socio-culturel que les codes sont différents. Les notions sont différentes. Ouais. Les gens se rendent pas compte que vivre en dessous dans un appartement qui fait moins de 60 mètres carrés, c'est la vie pour nous. Ils se rendent pas compte.
À ce moment-là, Paris-Dauphine, c'est où?
C'est dans le 16e.
Ah ouais, ok, d'accord.
Mais c'était particulier. Je pense que je prends des exemples extrêmes dans ma promo. Mais il y en avait beaucoup qui étaient...
Ouais, non, mais c'est un ressenti, donc c'est légitime de... Ouais.
Les échelles sont différentes et tu te mets à acheter des costumes, tout ça, pour essayer de suivre, pour pas taper l'affiche.
Tu te retrouves avec une sorte d'élite parisienne. Enfin,
Et je suis rentré dans ça. Il y a des photos de moi dossier où je suis en costard cravate. Je fais juriste.
C'est dossier, ça, parce que t'es trop apprécié.
Et il rentre, il chrède dans le costard.
On
n'a
pas
marrant.
Les mêmes dossiers.
Non, mais c'était un mode de vie épuisant où je devais mixer tout ça à côté pour faire de l'argent, pour essayer de maintenir cette apparence-là, parce que je participais pas mal à la clinique juridique, où c'était des cas réels qu'on traitait en pro bono, pour nous former en cours.
Okay.
C'est quatre terrains.
On rentre un peu dans la technique, mais au cas où.
On te forme à être avocat, par des cas réels. Et donc là, je devais m'acheter des costumes, tout ça, apparaître juriste. Rien que ça, c'est un coût économique, qui est pas négligeable quand t'es boursier et tout ça.
Clair.
Donc pour essayer de suivre ça, t'essaies de grappiller par-ci par-là. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire de master de droit. Donc, master de musicologie à l'EHESS, donc parcours musique.
Mais c'est intéressant, ça, c'est parce que je parlais de switch justement. Ouais. Alors, il y a eu des choses avant, tu nous l'as dit, mais c'est quand même marquant ça, où tu te dis finalement, je trouve ça assez révélateur, c'est que tu te dis pas non plus, je vais faire une école de musique, mais tu dis, je vais faire de la musicologie. C'est-à-dire que ça reste quand même à l'université, ça reste sérieux. Enfin, en plus, l'école des études en sciences humaines, c'est quelque chose d'assez réputé. C'est un peu une manière pour toi de trouver un entre-deux?
C'est parce que j'ai pas les tempéraments qu'ont Rinoisa et Nala de saisir les choses. Enfin, je me laisse un peu porter par la vie et j'ai du mal à prendre des décisions parce que je sais que j'ai pas ce filet de sécurité. Et donc il y a toujours ce...
C'est marrant, parce que moi justement je saisis les trucs parce que justement j'ai pas de filet de sécurité.
Ben moi j'ai pas cette force d'action là que t'as. Donc je suis en mode... On va garantir un peu, on va trouver des compromis et ça se fait de manière organique. Et petit à petit, tout au long de mes études, en fait, la musique prend le dessus. Donc, master musicaux que je finis pas. Parce que je me rends compte à un moment, bah, je gagne ma vie en tant qu'ingénieur du son. C'est une activité viable. Qu'est-ce que je fais dans un master? J'ai rédigé quasiment la totalité de mon mémoire, mais j'ai pas envie de finir. Parce que ça m'intéresse pas.
Ouais.
J'en ai fait tout au long de la licence et à chaque fois c'était de plus en plus ennuyeux. Et donc je me suis dit bah il est temps de faire le plongeon. Et c'était pas un plongeon, ça s'est fait de manière très organique.
Ouais, très graduelle et tout. Mais c'est là où t'étais malin aussi quoi. Tu l'as fait à ta façon et ça a fonctionné. Donc tu t'es écouté.
Je suis toujours trop prudent, mais en fait ça fait que les choses tuilent les unes sur les autres assez...
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est lié à nos forces de caractère.
Mais je pense pas que tu sois trop prudent. Je pense que t'es prudent et que ça a construit.
Ouais.
Si t'étais trop prudent, ouais, t'aurais fini ton mémoire.
C'est ça. Et donc pour un peu boucler la boucle, là, tu te dis, tu lâches complètement, tu fais des mix pour des gens, etc. Ça te permet déjà à peu près de manger.
Ouais.
Et puis, t'en arrives à bosser avec nous. Et voilà, il y a eu quand même des étapes. Bah, non, c'est parce qu'il y a eu ton groupe aussi, il y a Panache.
Ah oui, Panache, c'est la licence.
Ouais.
C'était en parallèle de la licence parce que j'étais en colloque co-chambre à la Cité Internationale dans le 14e. Avec notre ancien claviériste, son pote d'enfance et batteur, et notre voisine. Enfin, la chambre d'à côté, c'était la chanteuse, on l'entendait chanter. Tout se fait de manière assez organique. Et donc, ce groupe-là, avec lequel on a participé au tremplin Emergenza, et qu'on a gagné en France, et on est allé jusqu'à la finale internationale.
En Allemagne, non?
Ouais, on était troisième, un truc comme ça, ou deuxième.
T'avais juste mis ça de côté. Non, mais j'imagine que ça a dû jouer dans ta réflexion. En plus, tu joues dans un groupe qui a commence à avoir une certaine reconnaissance, ça devait travailler là-dedans, sinon.
Ça fait travailler, mais en même temps, j'ai été intimement convaincu par cette expérience-là que je voulais pas vivre de ma musique.
Ah.
Parce que je me suis rendu compte que c'est tellement de travail, c'est tellement de... Enfin, c'est un métier. Et il faut s'y consacrer vraiment à temps plein. Donc, je me suis dit, non, Panache, bon, donc, mon groupe Panache, disco pop un peu, ça va être jouer avec les copains. Et faire des dates énormes avec le culot. Parce qu'on n'en vit pas, donc on n'a pas besoin de faire des gros cachets, mais donc on est arrivé à faire des énormes premières parties, Jérémy Frérot, Oshi, tout ça, dans des gros festivals, et c'est totalement absurde. On a
Chili, tu viens de dire
Oshi, la chanteuse.
Ah, Oshi, ouais, non. Frérot, Oshili, c'est la genre.
Non. Pas jusque là, mais...
Non, mais c'est des grosses scènes d'affiches.
Donc on a fait que des grosses scènes, plutôt.
Trop bien.
On n'a pas roulé notre boss comme un groupe un peu classique, et donc... Ouais, bah c'est une expérience un peu ovni.
Et pour autant, tu me dis, toi, et alors j'imagine mieux vaut en tout cas que tu sois sur la même longueur d'onde avec les autres membres du groupe, c'est vous êtes dit, nous on veut pas vivre de notre groupe.
Bah c'est juste que on a, à part la chanteuse, notre chanteuse Amélia, on a tous un truc à côté.
Ok.
Le pianiste est en médecine, il va entrer en sixième année. Notre batteur est chercheur.
Incroyable.
En Sciences Co.
Alors que vous pourriez légitimement vous dire, on tente le switch.
Ouais.
Mais justement, bah, je pense que le rendez-vous avec cette directrice artistique qui nous a fait comprendre que si on veut faire le switch, il faut s'en donner les moyens.
Ouais, si t'as pas un tourneur qui est bien placé, un label aussi derrière, franchement, faire des premières parties, je pense que ça se trouve quand même encore assez facilement, même sans être bien entouré. Mais si t'as un groupe et que t'es pas déjà béton entouré, putain, en deux secondes, t'as plus rien, quoi. En deux secondes, il y a le Covid et c'est tout est fini, quoi.
Non, mais surtout que, je prends l'exemple de Félix, notre batteur, il est chercheur en sciences cognitives. Et donc, il a trouvé son truc.
Oh, les intellosépas, c'est la loi.
Il a trouvé un peu le juste milieu où il fait des tests sur comment les gens se synchronisent. Je vais simplifier énormément. Mais comment les gens se synchronisent quand ils écoutent des musiques, par exemple, différentes et qui sont face à face, qui se voient ou qui se voient pas. Donc, le groove, en fait, dans les êtres humains. Avec plein de capteurs, tout ça. Donc, c'est assez amusant. Donc, il a trouvé son truc et il est brillant. Il est brillant dans ce qu'il fait. Et pareil, Pierre, le pianiste, il est brillant en médecine. Donc, et c'est des trucs qui leur parlent vraiment.
Dans la médecine, comment il met un peu de musique dans tout ça?
À côté.
Pour détendre le patient, il met un petit son.
Non, ça, c'est un peu plus à côté de la médecine, mais. Ouais, on est tous dans des parcours où ça.
Ouais, ça peut être. C'est ça, on oublie aussi de se dire que ça peut être un hobby, quoi.
C'est pour ça que je dis que c'est important de valoriser la côté.
Ouais, enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Ils sont épanouis, hein. Et c'est bien.
Et que ça veut, ça veut pas dire que c'est une carrière ratée ou que c'est un peu.
Du tout.
Et que vous
on prend toujours l'exemple de Didier Vampasse qui a travaillé à la SNCF toute sa life, alors qu'il y avait un groupe qui tournait partout, quoi.
Bah ouais, mais tu kiffes, pourquoi pas, quoi.
Ouais, c'est marrant, je parlais rapidement de moi aussi. J'ai déjà fait dans un autre podcast, donc je vais pas trop y revenir. Mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, avec des études moins brillantes. non, mais c'est-à-dire que moi aussi, j'ai toujours été dans cette idée d'être dans l'équilibre absolu et de s'assurer de quoi manger, toujours. Et parce que si j'avais, dans ma famille, on me disait ça. Et je comprenais, et je voulais absolument rassurer. Et c'était pas envisageable. Mais c'est pas que lié au milieu socio-économique, parce que dans le cas de Jérôme, par exemple, il n'est pas d'un milieu favorisé. Pour autant, il a franchi le pas. Enfin, en tout cas, il y a un parcours de vie qui s'est fait de cette manière.
J'étais pas non plus à la ramasse, mais. Non. Enfin, je viens d'un milieu ouvrier, mais c'est pas. C'est
non, non,
pas
mais on n'est pas dans le misérabilisme ou dans le misérable. Pas non plus de la misère, mais c'était pas des milieux où il y avait beaucoup d'argent, en tout cas.
Ah non, clairement.
Et c'est vrai que. Moi, mon truc, ça a toujours été, j'étais dans une école de musique. Je faisais de la guitare, j'ai dû me mettre à 12 ans, un truc comme ça. Avant ça, j'avais une chance quand même, c'est que mes parents, assez tôt, m'avaient inscrit à de l'éveil musical, par exemple. Et que mes parents avaient, on était pas riches, mais par contre, j'étais assez favorisé culturellement. À la maison, il y avait des livres, etc. Et il y avait de la musique aussi. Et mes parents, ça leur tenait à cœur de se dire, c'est eux qui m'ont proposé, tu veux te mettre un instrument, etc. Et donc, il y avait cette volonté. Et ça fait la moitié du job, quasiment. La moitié du taf à l'effet. Si tes parents, ils te disent, tu veux te mettre un instrument? C'est une chance incroyable.
C'est sûr.
Et donc, ça, déjà, ça a commencé comme ça. Et puis, après le bac, donc, je faisais juste de la musique à côté. Mais moi, pour le plaisir. Moi, j'ai jamais eu, effectivement, contrairement à vous, de vrais projets artistiques, etc. Mais par contre, j'étais quelqu'un qui adorait jouer de la guitare et jouer avec quelques copains. J'avais des petits groupes avec des copains, etc. Sans aucune prétention. Je faisais juste des répètes et tout. Mais c'est ça le truc. Et donc, j'étais inscrit dans une école nationale de musique à Villeurbanne. Ce qui était, mine de rien, une formation, c'était pas le conservatoire, mais une formation un minimum sérieuse, c'était pas juste.
Une école nationale de musique.
Ouais, une ENM. École nationale de musique.
Je connais pas ça, mais c'est comme le conservatoire.
Non, c'est pas aussi réputé. C'est un entre-deux parce que c'est municipal.
Ah, mais c'est municipal ou c'est le conservatoire?
Oui, tout à fait, mais c'est un entre-deux dans le sens où, à ma connaissance, ils te forment pas de manière aussi reconnue.
Ah, il y a pas un diplôme d'État?
Alors, tu peux passer des diplômes, tu peux passer ton DEM déjà dans un premier temps.
Ah, bah ouais, c'est la même chose, hein.
Écoute, en tout cas, peut-être que je connais pas assez, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de hiérarchie quand même, et que tu peux pas dire qu'une école nationale de musique, c'est le conservatoire non plus. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouvert, qu'il y a quasi peu de sélection, si tu viens de la ville même, où ça vient, etc. Enfin, bref.
Ouais, au conservatoire non plus, il y a pas trop de sélection.
Peut-être que je connais mal, alors.
Moi, je sais pas, des fois, c'est un peu, genre, glorifier le conservatoire, alors que c'est une école de musique un peu, voilà, qui est là, et en plus, qui coûte pas très cher, parce que justement, c'est un peu financé par l'État et tout, mais bon.
Moi, c'est parce qu'il y a un côté qui se veut un peu élitiste dans l'inconscient collectif, je pense.
Ouais, parce que c'est la musique classique et de la manière dont c'est enseigné en France.
Oui, voilà.
Alors, c'est vrai que, par grande différence, c'est que, je vais parler de ça, parce que c'est pas intéressant. Moi, la musique, ça a pas été la grande passion tout de suite. Pas la musique, non, je dirais plutôt faire de la guitare. Non, la musique, c'était une passion. Mm-hmm. Faire de la guitare, pour moi, dans un premier temps, il y avait un côté un peu, c'était pas une corvée, mais il y avait un truc un peu, il fallait travailler.
Parce que t'avais des cours aussi.
J'avais des cours. En fait, j'ai commencé comme ça, par l'intermédiaire d'une copine de la famille qui connaissait quelqu'un qui donnait des cours de guitare. Et ça a commencé comme ça. Elle venait à la maison où j'allais chez elle. Et puis, comment j'ai commencé à apprendre la guitare, quoi, avec quelqu'un. Des cours particuliers, quoi. Mais qui était à la cool, mais quand même des cours particuliers.
Ça reste quand même le côté court, en fait, je pense, qui peut rebuter un petit peu.
Et en fait, mais tu sais, surtout, ce qui a changé, c'est que, mais c'était bien en même temps, parce que tu vois, il y avait un peu de lecture de partition, il y avait un peu des trucs, des petites bases que j'ai pas ensuite prolongées, mais qui, mine de rien, je pense, m'ont nourri, tu vois. Et en plus, j'étais doué, mais en tout cas, j'étais pas à la ramasse. J'étais plutôt un bon élève. Mais c'est juste que, je rentrais à la maison, j'avais pas forcément naturellement envie de prendre la guitare et de préparer le morceau pour la semaine d'après, tu vois. Et à un moment, après quelques années, donc j'étais sur de la guitare sèche encore. Et c'est là où ça va. C'est là où vous allez voir le switch. Comment ça se passe?
Ah oui, moi, j'étais sur
de la guitare classique.
Ben c'est normal.
Et c'est dans ce cadre, donc après quelques années de cours particuliers, ma prof me dit bon bah j'ai essayé de t'accompagner comme je pouvais. Je pense que si tu veux continuer vraiment plus sérieusement, tu devrais t'inscrire dans une école de musique plutôt. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et là pareil, c'est-à-dire que je m'inscris dans un département qui s'appelle guitare chanson. Alors différence avec le conservatoire, ça c'est très intéressant dans les écoles de musique. Je sais pas si c'est le cas de toutes. Ouais. En tout cas à l'ENM de Villeurbanne, ils sont même connus pour ça parce que c'est l'une des premières écoles de musique en France. Je crois que c'est à la fin des années 80, un truc comme ça, ou au début, je sais plus. Enfin, dans les années 80, il me semble, à proposer un département de musique amplifiée.
Ah trop bien.
Et ils ont été vraiment novateurs. Et d'ailleurs, il faudrait que je reçoive un jour. Je sais pas s'ils nous regardent. Je pense.
40 ans après.
Mais mon prof de guitare était l'un des fondateurs de ce département.
Trop bien.
Et c'est un homme passionnant et j'aimerais bien qu'on discute avec lui parce qu'il y a plein de trucs à dire, notamment sur comment ils étaient absolument pas considérés, encore peu, voire encore pas aujourd'hui, par rapport aux autres sections justement de musique classique, etc., qu'il y a aussi dans l'école et qui sont, ne serait-ce que dans leurs locaux, bien mieux mis en avant.
Non, bref, mais c'est dingue. Franchement, moi, c'est ce qui m'a révolté. Hein. Franchement, je voyais comment ils. Enfin bref, moi ça m'énervait trop leur manière de parler, de se comparer, de tous se classer, de tous se mettre en compétition. C'est hyper dur la compétition classique.
Tu veux un exemple aussi là-dessus qui illustre parfaitement bien. Juste donc pour terminer sur mon petit truc, c'était je m'inscris là, ils appelaient ça donc guitare chanson. En gros, c'est encore sur ta guitare sèche. Mais l'intérêt, c'est que tu pouvais amener les chansons que t'aimais, tu chantais un peu.
Trop bien, mais le rêve.
Voilà. Et ça, je le fais 2 ans, et ça prend pas complètement. Et au bout d'un moment, mon prof me dit, mais vu les morceaux que tu me ramènes, va t'inscrire en guitare électrique.
Oh
et je m'inscris en guitare électrique, et là, c'est...
Oh mais bien sûr.
Et là, c'est le kiff, ça commence vraiment. Et là, il n'y a plus besoin d'être derrière moi. Ne lâche pas, je suis vers la fin du collège.
Mais en fait, tu sais quoi, c'est l'âge où tu commences aussi à savoir un peu plus ce que tu veux.
Bien sûr, un peu plus t'affirmer tes goûts, etc.
Et à cette époque, t'as pas encore de goût précis.
Et puis surtout à cette époque-là, je commençais à écouter énormément de rock, énormément de métal, etc. Et là, putain, j'obtiens le son et je peux jouer les trucs que j'adore. Et là, c'est un kiff absolu. Ouais. Et c'est là où la passion est vraiment arrivée, où elle m'a jamais quitté, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Et par rapport à ce que tu disais, la compétition, etc., j'ai un exemple extrêmement parlant. J'ai 3 petites sœurs, donc 2 qui ont été inscrites dans la même école que moi, de musique. L'une en violon et l'autre en flûte traversière. Les 2 ont arrêté.
Ouais, bah bien sûr.
Les 2 ont eu... ça a été compliqué avec leur professeur. Parce que c'était le système scolaire qui était calqué sur l'école de musique.
Non, pire. C'était, je te jure, c'est pire.
Peut-être. En tout cas, moi, ce que je voyais de l'extérieur, c'était... tu peux redoubler, c'est bien un classement, machin, etc. Ça les a tués. Ça a cassé leur plaisir et leur envie de faire d'un instrument de musique. Et moi, qui étais dans la même école, mais au département musique amplifiée, où c'était les babacools. Il n'y a jamais eu aucune frustration, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'approche pédagogique était à milieu. Ouais. C'était « ramène ce qui te fait plaisir, viens, on essaie, on voit ensemble, etc. » Et moi, j'ai continué. Ouais. Et je suis sûr que ça a participé. Qu'on casse plein de gosses, franchement, dans l'enseignement de la musique.
Ouais, tout à fait.
Moi, c'est un truc, c'est pour ça que je n'ai jamais été attiré par ça. Il y a un truc qui me dérange un peu dans tout ce côté conservatoire vraiment institutionnel de la musique, c'est qu'on forme des interprètes, des très bons musiciens, enfin instrumentistes, mais en aucun cas des artistes. Quoi. On ne t'apprend pas l'art. On t'apprend une technique, une rigueur... de manière, c'est des maths en fait.
Quasiment.
Mais il y a d'autres approches pédagogiques heureusement qui existent.
Des
bons enseignants qui.
On glorifie un peu le conservatoire tout ça, mais je connais très peu d'artistes qui sortent du conservatoire, il y en a beaucoup qui arrêtent, il y en a beaucoup qui font partie d'orchestres ou de choses où ils sont interprètes quoi. Mais de vrais artistes qui arrivent à en plus créer vraiment leur musique, souvent c'est presque plus compliqué pour eux parce qu'ils sont tellement formatés à utiliser des instruments mais pas à composer vraiment, parce que être compositeur là c'est, enfin je crois que c'est le summum du truc. Absolument. Genre t'accèdes jamais à ça en fait. Donc je trouve ça un peu dommage en fait que ça se renouvelle pas un peu là-dedans, tu vois.
C'est normal aussi, la musique classique c'est, je suis désolée de le dire, hein, mais c'était une autre époque, c'était aussi une période, un temps donné, aussi un continent, parce qu'il faut pas l'oublier aussi, ce truc où c'est très européen, où c'est très, il y a une époque sociale, des trucs, enfin. Et aujourd'hui, ça fait plus sens comme ça faisait sens à l'époque de Mozart, quoi.
Après, peut-être c'est voulu aussi, dans le sens où ils veulent garder ce petit côté patrimoine.
Si vous voulez poursuivre cette discussion, il y a un épisode de DLT consacré à la musique classique, avec des musiciens classiques. N'hésitez pas à regarder l'épisode. Mais
il y a aussi un excellent épisode de Adam Neely.
Attends, non, c'est un autre podcast. Non, il y a pas d'autre podcast.
Non, c'est un YouTuber.
Ici, c'est le seul vrai podcast.
C'est un YouTuber.
Pardon,
il y a une excellente vidéo de Adam Neely, bassiste YouTuber, qui explique comment la musique classique est outil de domination et que l'enseignement solidifie une académie.
De manière générale, regarder Adam Neely, c'est très bien. Faut comprendre l'anglais, mais c'est très très bien.
Ouais. Non, mais sur ce truc de mettre une métrique, donc pour mesurer les gens parce qu'on veut les classer, tout bêtement, sur de l'expression intime, forcément tu casses des gens.
Résumé. Mais même, on sort de la musique, mais même dans les échecs scolaires et tout, c'est principalement dû à ça. C'est un peu... En fait, tu sors plein de personnes qui sont loin d'être bêtes juste parce que ça leur correspond pas. Quoi.
Non, mais le système scolaire est problématique.
D'ailleurs,
plein
vous avez remarqué, j'ai pas parlé de mon cursus scolaire.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas grand-chose à dire.
Je fais partie des gens qui ont été cassés assez vite et qui fonctionnent pas comme ça. Du coup, je suis pas débile, je suis pas un génie, mais je suis pas comme toi. Mais...
Non, je suis convaincu que ces métriques-là, ça mesure un type d'intelligence précis. Tu rentres pas dans la case.
Mais en fait, j'ai envie de dire, il faut le reprocher à l'école, parce qu'il y a plein de trucs qui marchent pas à l'école, et effectivement, en fait, on rend pas les enfants plus intelligents. On attend d'eux qu'ils se conforment au système scolaire, et si tu rentres dans le moule, ça va, et si tu rentres pas dans le moule, c'est compliqué. Pour autant, je veux bien reconnaître que c'est une question complexe, que c'est de l'éducation de masse, etc. Je voudrais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué. Mmh. Pour autant, quand tu dis quand c'est du loisir, putain, quand c'est du loisir de calquer ce modèle sur le loisir, c'est criminel.
Là, c'est dur, c'est dur.
Je suis d'accord.
C'est clair.
C'est censé être là pour épanouir les gens, les aider, avoir un truc, tu vois, qui fait du bien à la maison et tout. C'est dommage de les casser avec un truc trop rigide.
Ouais. Moi, je détestais aller en cours de flûte, je me souviens encore. Vraiment, je sortais du cours, je faisais... Yes,
c'est
une semaine.
En plus, le truc, c'est que ça te dégoûte. Après, alors que c'est un truc qui aurait pu te plaire de ouf, si c'était bien, tu me diras comme les maths, au final. Si t'as un prof nul, ça casse tout. Si t'as une méthode d'apprentissage qui est pas bonne, ça te dégoûte, en fait.
Mmh. Mais parce que t'as raison de distinguer les deux, c'est que ce soit pour l'école ou pour l'école de musique, etc., c'est que t'as un système, d'une part, qui implique des trucs, et puis après, t'as des individus, et qui parfois arrivent un peu à l'encontre du système. Mais le système, le but, c'est quand même de plier tout le monde, donc c'est dur d'y échapper, par tomber sur quelqu'un d'exceptionnel.
Ouais, puis tu fais en sorte que ça plaise au plus grand nombre, dès que t'en as deux, trois qui lâchent, tu peux pas les rattraper, il y a trop d'élèves, donc ouais, c'est très, très compliqué.
Bon, on a fait un bon point sur les parcours, sur nos métiers différents, etc. Encore une fois, le but, j'espère qu'on y est arrivé, mais c'était de montrer un peu la diversité des métiers d'une part, des moyens d'y arriver, de se dire que il y a plein de choses possibles, et surtout, je pense qu'il ressort un peu globalement, vous me dites ce que vous en pensez, c'est faut faire des choses. Et dans le sens où, que ça soit, tu fais des études classiques en parallèle très bien, etc., juste garde ta passion, fais-le à fond, lance-toi complètement dedans si tu le sens, si t'as les moyens qui te le permettent aussi, etc. Si c'est plus compliqué, essaye de le garder avec un peu de chance, même pas forcément pour en faire sa vie artistique, etc., mais avec un peu de chance, il y a moyen d'insuffler un peu de cette passion dans plein de domaines derrière. Je pense que c'est un peu le truc qu'on peut retenir de tout ça, et je pense qu'il est important de le rappeler, quoi. C'est pas blanc, noir, c'est pas le binaire dont on parlait. C'est un truc qui te tient à cœur, tu le disais. Il y a plein d'ajustements certainement trouvables, quoi.
Bah moi, quand j'étais plus jeune, on m'a donné un conseil qui est hyper intéressant, je trouve, que j'avais très envie de partager avec vous. Merci. C'était, si t'as envie de faire de la musique, essaye de travailler dans la musique. Ça a l'air débile dit comme ça, mais en gros, moi, j'ai toujours voulu, je pense que la finalité, c'est être chanteuse. Mon rêve, ce serait de faire l'Olympia, c'est pas... voilà. Et du coup, on m'a toujours dit, si tu veux être signé chez Universal, commence déjà par te faire engager comme stagiaire à faire les cafés chez Universal. Tu seras chez Universal.
Pour le réseau.
Voilà. Non, mais pour le réseau, mais pour voir comment ça se passe, pour être là, en fait. Mmh. Et moi, je pense qu'au tout début, quand je croyais pas du tout que c'était possible de chanter, de rassembler une fanbase ou des trucs comme ça, je me suis dit, je vais donner des cours de musique. Parce que moi, je suis là. Je donne des cours de musique, je parle de musique, machin. Ensuite, je vais faire du booking. Parce qu'au moins, je rencontre des artistes, leur parle et tout, tu vois.
Je remondis rapidement là-dessus, mais il y a un truc, tu vois, quand j'ai fait mon accompagnement artistique, en fait, j'ai découvert tout. En fait, quand t'es dans ta piole et que tu fais du son juste pour toi, tu connais pas les trois quarts des métiers de la musique.
Ouais.
Et du coup, moi, cet accompagnement, en fait, j'ai découvert ce que c'était que des bookers, parce que en fait, tu fais plein des sortes de réunions où on t'apprend des choses. Il y a un intervenant qui arrive et il parle de son taf. Du coup, tu rencontres des bookers, tu rencontres des programmateurs, tous les acteurs autour de la musique. On t'explique ce que c'est que l'édition, on t'explique ce que c'est que la SACEM. Mmh. Et en fait, ça, quand t'es jeune, que tu fais du son n'importe quel, quand t'as pas fait d'école, tu te rends pas compte qu'il y a tous ces métiers là et qui sont ces décideurs au final de tout ce qui va se passer après si t'arrives à être artiste. Et ça, moi, ça a été un gros truc aussi d'apprendre, de voir un peu tous les métiers qui entouraient la musique.
La mais c'est la base d'ailleurs de l'orientation aussi.
C'est hyper lié dans le sens où toi, ta technique serait plus d'intégrer ces crews-là pour justement voir comment ça se passe en interne. Et effectivement, c'est hyper intéressant de connaître tous les rouages pour réussir à avoir une vision un peu plus à long terme.
Ouais, moi, au départ, c'était même pas voir les rouages, c'était être au bon endroit au bon moment. Moi, je me disais, il faut que je sois dans l'action, quoi. Alors, même si j'étais pas... Par exemple, j'ai fait des trucs fous qui sont totalement en dehors de mon cercle d'activité, juste parce que je voulais être à un endroit précis. Par exemple, j'ai travaillé dans plein... Je vous ai dit, j'ai une passion pour l'Olympia, salle pour moi qui est absolument mythique. Et un jour, j'ai entendu un appel d'offres, oh là là, pour couvrir une grosse soirée à l'Olympia en tant que community manager. Et moi, j'ai jamais fait de community manager. Jamais. J'ai dit, oui, super, je sais faire. Ils m'ont dit, ok, montre-moi un truc. J'ai dû pipoter un CV, n'importe quoi. J'y suis allé avec mon appareil photo et j'ai pris en photo toutes les stars et tout. J'étais dans les coulisses de l'Olympia. J'étais folle. J'ai mon badge de l'Olympia. Il est encore chez moi et Et en fait, j'ai fait un truc qui était pas du tout dans mon domaine de compétences, mais je me suis pas démontée. Je me suis dit, c'est là qu'il faut que je sois. J'ai envie d'y être. Et quand je suis rentrée dans la salle, dans les coulisses et tout, j'ai fait genre, je l'avais vu qu'en photo, les murs ils sont orange, les trucs. Enfin, je me disais, mais c'est de la folie. Et en fait, c'est pas du tout ce que la finalité. C'est pas, je suis sur scène et c'est moi la star et tout, mais j'y suis quand même déjà un peu. Et en fait, ça compte énormément pour moi, pour ma confiance en moi et pour mon parcours de me dire, de pouvoir dire après, reparler avec d'autres gens et dire, ah, mais t'as déjà été à l'Olympia, tu dois connaître machin. Bon, alors je te présenterai. Tu vois, il y a un truc où tu rentres un peu plus dans le cercle quand même, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut oser aller directement, même si c'est en bas de l'échelle, quoi.
Et puis ouais, ne pas oublier, effectivement, on l'avait évoqué au début du podcast, en disant peut-être qu'on y reviendrait, je sais pas si vous voulez développer un peu, on a encore un peu de temps éventuellement, mais il y a vraiment faire de l'art en tant que tel, et puis il y a l'industrie musicale, donc accompagner les artistes, être à plein de niveaux, qu'ils soient économiques, marketing, etc. T'as aussi, donc, on le disait, la spécificité à laquelle on pense beaucoup moins, c'est aussi parce que nous on bosse là-dedans, mais l'audio pro, effectivement, qui est donc les fabricants, etc. Alors, il y a pas énormément de taf, c'est pas aussi gros que l'industrie musicale, etc. Mais les magasins de musique, être fabricant, etc. Il y a des choses à faire autour de ça aussi. Donc ne jamais oublier. Typiquement, nous on fait du contenu et on gagne notre vie parce que un magasin vend des instruments de musique. Donc et on peut quand même y parler de musique.
Citons-les.
Est-ce qu'on parlerait pas de Thomas? Absolument. Non mais ça c'est complètement dingue. Et d'ailleurs c'est je pense même qu'il faut se dire à un moment, je prends plutôt, je dis moi ce que je me suis dit. Comme ça, après, on n'est pas obligé d'être tous pareils. Mais moi, quand j'étais adolescent, je rêvais d'être une rockstar aussi, tu vois, comme tous les mecs qui font de la guitare, etc. Mais c'est vrai que, alors, certains considèrent que c'est peut-être dommage, mais assez vite, je me suis dit, je suis certainement plus fort pour parler de musique que pour en faire. Et donc, mais ça me va fondamentalement.
Ouais.
Mais tu vois, justement, de se dire à un moment, mais par contre, je voulais essayer idéalement de parler de musique. Alors quand j'ai fait mes études, c'était pas du tout assuré, etc. Ça a été compliqué, mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Et donc, ça peut être aussi une autre forme d'aménagement dont on parlait. C'est-à-dire, attends, j'adore la musique, c'est ma passion, j'en fais, c'est génial. Peut-être que ça, je peux le garder pour la maison. Et puis, quand même travailler, pas faire de la musique, mais ne serait-ce qu'en parler, ou essayer de la vendre, ou je ne sais quoi, etc. Et ça peut être un grand kiff.
Ouais, tout à fait.
Ça peut être un grand kiff quand même, quoi. Et d'une certaine manière, c'est un peu tout ce qu'on fait autour de cette table.
Ce que j'allais dire.
Notre contenu, en fait, c'est pas faire de la musique en tant que telle. On en fait. Mais en réalité, c'est pas exactement la même chose non plus. Mais vous prenez du plaisir, je pense, dans ce que vous faites.
Je déteste ça.
Merde.
Vraiment, il a fallu me traîner pour venir ici.
Non, mais typiquement, c'est ça. C'est genre là, aujourd'hui, moi, quand je fais une vidéo, on fait tous des vidéos un peu différentes, mais quand je fais une vidéo qui n'est pas forcément de la musique, ou juste je vais parler de musique ou parler d'un matos précis, C'est aussi kiffant que de faire un concert. Enfin, c'est juste un autre délire, mais
qui
mais
sont complémentaires.
C'est complémentaire, mais... voilà. Puis en plus, enfin voilà, du coup, on a un peu, enfin les deux casquettes, tu vois. En tant qu'artiste, enfin moi, je sais que je vais refaire des concerts à un moment, c'est sûr, tu vois. Et du coup, ça, mon métier, c'est plein de choses aujourd'hui. C'est faire de la musique de pub, faire des vidéos, faire des concerts, faire masse de trucs, quoi. Même, ou essentiellement des ateliers, tu vois. Ou...
Et même, c'est parce qu'on le disait tout à l'heure, tu disais, Nala aussi, que tu disais que tu avais énormément appris en donnant des cours. Ce que tu apprends en faisant des vidéos, ça te sert aussi pour ton expérience artistique.
Tout se nourrit, quoi.
Qu'on fait à chaque fois, c'est pas des trucs, c'est des piles supplémentaires qui servent entre elles, etc.
C'est pour ça que pour moi, je dis, il faut travailler directement dans la musique, parce que tu apprends des choses qui construisent l'artiste après que tu deviens, tu vois.
Ouais, mais c'est pas évident de travailler directement dans la musique.
Moi, j'aurais jamais eu. Enfin, j'admire tellement ta force d'action.
Ouais, moi, c'est parce que j'aime trop mentir aussi. J'aime trop dire que j'ai des compétences que j'ai pas, mais aujourd'hui, du coup, je les ai.
Non, c'est ça
qui est drôle.
Tout fait au culot.
Mais
moi
il y a 10 ans, je les avais pas.
Non, mais le studio, culot, pareil, moi, c'était plus, ça. Ouais. Moi, je l'ai pas, mais en studio, quand on me disait tu sais faire, moi, je disais oui.
Et tu sues quand même.
Mais non, mais toujours dans des cadres plus. Je faisais pas des shows comme toi.
Ouais, mais tu sais, moi, on me disait t'es pas prise pour le job. Tu vois, j'allais pas mourir, tu vois.
Par moi,
contre,
je mourais un petit peu.
Tellement plus à gagner qu'à perdre.
C'est parti de moi qui mourais aussi.
Moi, quand on me disait non, je mourais un peu, ouais, je pense.
Ouais, mais bon, ouais, je sais pas.
Non, mais franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que.
Faut oser, mais tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Je sais pas s'il faut le mettre sur le relais. C'est pas pour tenter dégrader Nala, mais justement, attention à pas dire c'est une force et puis certains l'auraient et pas d'autres, etc.
Non, bien sûr. Enfin, de ouf.
Il y a du tempérament. On trouve sa route dans tous les cas. Ouais. Moi, j'ai réussi à vivre de la musique, donc accéder à ce statut, donc ça va. Mais par des biais différents, et il faut accepter qu'on est tous différents et qu'il y a tellement une infinité de manières de faire les choses et
bien sûr
d'arriver à.
Non, mais à la limite, plutôt, je sais pas si ça se trouve en vrai, c'est la même chose, mais moi, c'est vrai que je parle pas de force. Par contre, je dis clairement, il y a des gens qui ont plus faim que d'autres. Ça, c'est vrai.
Et que
clairement, moi, par exemple, d'un point de vue artistique, je pense qu'en vrai, j'ai les compétences techniques, en tout cas, pour faire de la musique. Je crois que j'ai pas autant faim que plein de gens qui font de la musique. Et que c'est pour ça que je le fais pas, en fait. C'est pas grave.
Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une grande humilité de dire, moi, je préfère parler de la musique. C'est ça aussi que je sais bien faire et tout. Moi, je trouve que justement, il y a pas assez de gens qui se l'avouent, tu vois. Parce qu'ils ont l'impression de perdre un peu leur rêve de rockstar, de rétrograder, tu vois.
Mais en vrai, le rêve, tu sais, il est toujours là un petit peu, mais tu te dis, c'est peut-être que j'aimerais bien un jour faire un vrai EP et puis le mettre, et puis j'aurais 100 écoutes et ça sera très cool. Mais juste, c'est ce challenge vis-à-vis de moi de me dire, est-ce que finis un morceau, tu vois, et puis idéalement de 4 et puis tu les mets ensemble et puis peut-être un peu cohérent, parce que ça me fait rêver quand même. Mais par contre, de venir faire une vraie carrière, j'y crois absolument pas et j'en ai pas envie d'ailleurs, en fait, je crois fondamentalement. Par contre, je garde. Enfin, je peux pas juste dire plus de musique.
Ouais, bien sûr.
Et j'ai l'espoir de m'améliorer encore et d'être capable de finir des bons morceaux. Pour moi, tu vois.
Ouais.
Le P.
Ouais, il faudrait un jour.
Et pour les 3 ans de la chaîne,
un EP.
Ça fait qu'un an.
Non, dans un an, pour les 3 ans de la chaîne.
Pour les 3 ans de la chaîne, on fait un EP, genre.
Oh,
je lance tout de suite là, je me mets dans la merde.
Il y a moyen.
Il va falloir trouver une DA cohérente.
ça va être chaud.
Un son chacun, genre. Je sais pas.
Non, mais le projet violence, moi je t'envoie un des morceaux, je suis sûr.
Ah oui, sur la radio, ouais.
On
va s'amuser.
Ouais, c'est vrai qu'on
on trouvera des trucs. On fera un truc funky.
Il va y avoir des
funky, il y a rock metal.
Ouais, non, mais en vrai, il y a plein de. Non, c'est lui qui fout la merde.
Ouais. Il aime pas la pop.
Non, ça va, je sais m'adapter aussi un petit peu. C'est vrai que c'est plus dur.
L'année dernière, quand on a fait Michael Jackson, t'as tiré la gueule.
C'était un défi pour moi. on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis un peu sans concession dans mon délire, tu vois. J'adore plein de styles de musique, hein, mais c'est vrai que faire de la musique qui ne me plaît pas de base, ça me fait moins kiffer, tu vois.
Non, bien sûr, évidemment.
Et du coup, je n'aime pas Michael Jackson.
C'est inacceptable, mais on fait avec.
Non, c'est faux. C'est acceptable.
C'est parce qu'il a cancel, parce qu'en fait, il est beaucoup plus woke que nous. Et du coup, Michael Jackson, pour lui, c'est pas possible, tu vois.
Écoute, les amis, je crois qu'on a fait un bon tour de notre sujet du jour. Merci d'être venus, d'avoir partagé toutes vos expériences, etc. C'était un plaisir. Vous les retrouvez tous de toute façon sur la chaîne YouTube Monte le Son. Pour ceux qui nous écoutaient en audio, allez jeter un coup d'œil sur YouTube. On fait plein de trucs complémentaires du podcast intéressants autour de la musique. Mm-hmm. Vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram en perso. Nala, Renoiser, Chili Toy. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Un grand merci à la bouclette aussi.
Oui,
oui, tu avais un petit truc à rajouter, non?
Non, non, moi je souriais parce que je suis contente. Ouais. La
oui.
joie.
Grand merci à la bouclette qui nous accueille, qui fait la technique. Ouais, ils sont sympas ouais. comme tout, ils sont compétents, ils sont incroyables. Ouais. Merci la bouclette. Merci Thomas aussi évidemment de permettre à cette émission de vivre, de proposer des discussions. On espère de vous passionner. En tout cas, nous, on cherche à partager ça avec vous. On espère qu'on y arrive. Oui. Et puis. Le podcast rentre dans un nouveau cycle.
Nouvelle ère.
Dans une nouvelle ère, ouais, absolument. Voilà, on dit ça à chaque fois, mais là, c'est promis de chez promis.
Là, c'est vrai.
Là, 2 mois, c'était trop. C'était n'importe quoi.
Ouais.
Donc, je m'engage très, très vite. On va revenir absolument tous les 15 jours. Il y aura des invités à chaque fois, des animateurs à chaque fois. Ce sera bien passionnant, promis. À très vite. Ciao.
Ciao.
Bye, man.